With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est le rendez-vous jeu, on est en février 2022, c'est l'épisode numéro 229 et on va parler de Elden Ring, de Destiny, The Witch Queen, encore un petit peu de Horizon Forbidden West et évidemment de House Flipper 2, la plus grosse annonce de la semaine. C'est parti! Et oui, House Flipper 2, la plus grosse annonce de la semaine. Évidemment, on va en parler puisque Trinity est là avec nous aujourd'hui pour l'épisode 229. Comment vas-tu, Trinity? Est-ce que tu es en grande forme?
Ah bah comme toujours, en très grande forme. Et puis alors d'autant plus quand j'entends des bonnes nouvelles comme House Flipper 2, hein, clairement. Hein.
Bon, on commence à voir quel GOTY se dessine pour cette année, mais pour l'année prochaine, on sait déjà lequel ça sera. Hein, c'est garanti. Merci d'être là. On a également Benoît Régnier, alias Exerve, qui est là avec nous. Et comme toujours, c'est un plaisir et un honneur de te recevoir, mais encore plus quand on parle d'un jeu From Software.
Bonjour.
Elden Ring. Salut Benoît.
Bonjour. Oui, moi j'ai dû taper House Flipper vite fait dans Google pour pas être trop ringard et ça y est, je sais ce que c'est maintenant.
Maintenant tu es in. Tu peux. Ouais. On peut t'accepter dans l'émission. C'est très bien.
Cool.
Super. Bah écoute, merci beaucoup d'être là. Moi je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement les nouveaux patriotes qui ont rejoint la grande famille des soutiens de l'émission. Simon, Gilles, Coussin Rouge. Alors il y avait Coussin Bleu aussi, mais lui visiblement il a pas voulu se joindre à nous. Donc merci à vous trois et bien sûr au producteur de cet épisode, Benjamin, qui a trouvé le niveau secret sur patreon.com/rdvjeux. Merci à vous tous. Et puis, je dois aussi vous dire un petit mot sur Battle for. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est Battle for. C'est un événement caritatif qui aura lieu du 4 au 6 mars et je vais participer en stream remote. C'est un événement au profit de Handicap International et l'association Apart. L'événement aura lieu au Stade de France à ce moment-là. Et moi, j'y participerai comme de nombreux streamers en remote. Donc, j'espère que vous serez présents. C'est un week-end. Je vais essayer de streamer autant que je peux. Il y aura peut-être les enfants qui sautent dans le stream à un moment. Je ne sais pas, on verra. Mais j'espère que vous serez présents. On a déjà les goals qu'on est en train d'établir avec le Discord. Il y a eu quelques bonnes idées. Je vous en dirai un petit peu plus à ce moment. Mais save the date du 4 au 6. Il y aura quelques heures par semaine de ma part. J'espère que vous serez là. Et puis je vais dire quand même un petit mot sur ce qui se passe en ce moment. On s'est réveillés tous avec l'annonce du début d'une guerre en Ukraine. Et du coup, je vous avouer, juste pour le mentionner, c'est un petit peu difficile de se concentrer sur les jeux vidéo. Évidemment, on en a un petit peu parlé avant de lancer l'émission. Bon, on se dit que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de continuer à faire ce qu'on fait normalement. Nous, on est, je pense, peut-être même un petit peu plus au courant de ce qui se passe en Finlande, puisqu'on a le voisin russe juste à côté et que ça affecte tout depuis très longtemps. Mais bon, moi, je suis évidemment un petit peu stressé, c'est hyper anxiogène, mais on peut pas faire grand-chose d'autre que de suivre ce qui se passe, d'envoyer nos... C'est un petit peu ridicule de dire ça, mais nos meilleurs espoirs, pensées, prières pour ceux qui sont affectés par ce conflit. Mais on ne peut pas, en gros, je ne sais pas quoi, comment gérer la chose autrement que peut-être essayer pendant une petite heure, une heure et demie, de faire autre chose que de s'angoisser à doomscroller Twitter. Donc c'est ce qu'on va faire, du mieux qu'on peut, vous proposer un petit peu d'escapism. Et parler de l'une de nos passions. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Et on va commencer avec les grosses infos de la semaine, qui sont pas si grosses que ça, comparées aux jeux de la semaine. Mais on va commencer quand même. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là pour les infos. deux choses que je voulais mentionner avant de nous lancer dans les jeux. D'abord, annonce étonnante, je dirais, et peut-être pas si étonnante que ça. On a eu un rapport selon lequel il n'y aurait pas de Call of Duty, c'était un rapport de Bloomberg, je crois, auquel Activision a répondu, il n'y aurait pas de Call of Duty en 2023. Donc il y en aurait bien un cette année, ça serait a priori Call of Duty Modern Warfare, Modern Warfare 2, la suite du reboot de Modern Warfare 2, mais en raison de la contre-performance de Call of Duty Vanguard et puis un petit peu de la fatigue qui semblait ne jamais pouvoir arriver, mais qui finalement se manifeste un petit peu de la franchise annuelle, eh bien Activision aurait décidé de décaler le Call of Duty 2023 à 2024, laisser un petit peu respirer. Et entre-temps, il y aurait donc du contenu pour Modern Warfare 2, qui lui va bien sortir cette année, et un free-to-play qui serait peut-être la nouvelle version de Warzone, Warzone 2, dont on a déjà entendu parler. Et donc, Call of Duty 2024 serait aussi sur PlayStation, malgré le rachat d'Activision par Xbox, par Microsoft, qui se concrétisera a priori en 2023. Donc, un Call of Duty en 2024 sur PlayStation, étant donné les contrats. C'est notable parce que dans le paysage du jeu vidéo, il y a eu un Call of Duty absolument chaque année depuis 2005. Donc ça fera presque 20 ans avec un Call of Duty chaque année et jusqu'en donc un par année jusqu'en 2023, ça serait la première fois. Bon, je sais pas s'il y a énormément de choses à ajouter sur le rapport qui nous a appris ça. J'imagine qu'on n'est pas des super méga fans de Call of Duty ici dans l'émission, mais
non, mais moi perso, pour rajouter un tout petit avis, je pense que c'est une bonne chose en fait, parce que tu vois, je peux concevoir le fait que par exemple un jeu comme FIFA doive se renouveler chaque année, etc. Parce qu'il y a des histoires de joueurs, de clubs, voilà. Mais par exemple un jeu comme Call of, je trouve que c'est bien, tu vois, qu'ils puissent se permettre de dire, ok, on va peut-être prendre un peu plus de temps pour faire un jeu plutôt que de les enchaîner, sachant que c'est vraiment un des FPS qui chaque année arrive avec un nouveau titre, alors que si tu prends en comparaison un jeu comme Battlefield, ça met plusieurs années et ils essaient d'exploiter le jeu sur plusieurs années. Moi perso, je suis plutôt positif.
C'est pas le bon exemple Battlefield parce que là ils sont au fond du gouffre, mais oui, c'est clair que ça fait du bien,
le succès,
ça fait du bien qu'ils respirent, quoi.
Ouais.
Ne serait-ce que pour les gens qui sont derrière, parce qu'il y a une pression de dingue à sortir un Call of tous les ans. Enfin, en gros, les gens, comme ils bossent en alterné avec deux ou trois studios, avec les grèves et tout, on l'a vu, ils sont à bout, quoi. Ils sont à bout de nerfs, les gens. Il faut sortir un jeu en deux ans, c'est pas possible.
Ouais, il y a plus, il y a, je crois, trois studios, donc c'est en trois ans. Mais enfin, ils sont 11 maintenant. 11 studios, c'est une machine complètement folle. Mais oui, clairement, la décision semble venir de l'intérieur. Certains pensent évidemment au rachat par Microsoft. Il semblerait que la décision ait été prise avant même l'annonce du rachat, enfin le début des discussions du rachat, et donc c'est pas lié à ça, de rachat dont on a entendu parler, que les discussions ont commencé d'ailleurs 3 jours après le rapport sur Bobby Kotick qui avait eu lieu en novembre. Donc Phil Spencer a décroché son téléphone très très vite pour appeler Bobby Kotick, il semble.
C'est le mec, il a sorti son chéquier, il s'est dit bon, voilà, 70 milliards, ça va, c'est bon, tout le monde est calmé.
Allez, eh bien non, figure-toi qu'au début, ils avaient proposé $80 par action avant de passer à 95, je crois. Donc, tu vois, ils ont négocié ardument. Mais bon, bref, donc, pour l'année où il n'y aura pas de Call of Duty, je ne m'inquiète pas vraiment pour Activision, quoi qu'il arrive. Du contenu supplémentaire pour le titre existant, bon, ce n'est pas les derniers à faire du jeu Game as a Service de toute façon. Et s'il y a effectivement une sortie d'une nouvelle version clean de Warzone, bon, ça fera aussi leurs affaires. Je pense qu'ils ont calculé la chose.
Ouais, de toute façon, on ne s'inquiète pas pour eux. Hein.
Voilà.
Ils seront toujours aussi riches, hein, ce n'est pas le problème.
Ça, je crois qu'il n'y a aucune inquiétude à ce niveau, oui. Mais bon, ceci dit, on peut noter que, comme le disait Trinity, ils ont un jeu par an, et c'est beaucoup comparé à des concurrents qui, eux, en sortent parfois un tous les 4-5 ans. Un jeu par an qui sont des succès à chaque fois phénoménaux. Et je crois qu'on peut assez facilement être un petit peu critique de la cadence et même critique des jeux, même en disant « Ah, il y en a un par an, il y en a un tous les ans, c'est toujours la même chose ». Bon, il y a un petit peu de vrai là-dedans, mais il aurait aussi été assez facile, au-delà des questions de rythme et de problèmes que ça pose pour les gens qui doivent sortir ces jeux, je suis sûr que la pression est conséquente, les jeux ont tous été des succès, et encore maintenant, c'est encore des succès. Les studios, faut quand même, pour des jeux, bon, les auditeurs du rendez-vous jeu, je pense, ne sont pas les premiers clients de Call of Duty, encore que, on ne sait jamais. Pour des jeux qui sortent chaque année, ils se vendent à chaque fois super bien, et oui, il y a une partie d'automatisme, mais il y a plein de franchises qui ont été enterrées parce qu'elles sortaient trop souvent, et elles n'ont pas réussi à maintenir le niveau, on va dire, d'intérêt des joueurs. Un truc qu'on ne peut pas leur enlever, qu'on ne peut pas enlever à la série, c'est que l'intérêt des joueurs de Call of Duty, c'est jamais tari. Et bon, ça c'est juste un truc que je note comme ça. Intérêt tari, bon, enfin, jamais. Évidemment, il y a eu des épisodes qui ont eu moins de succès que les autres, hein, c'est clair. Intérêt qui s'est jamais tari, Street Fighter, qui fête, c'est quoi, 35 ans maintenant? Quelque chose comme ça. Street Fighter avec une annonce pour Street Fighter 6. Alors là, je pense que je suis le seul vrai fan de jeux de combat dans le lot. Parmi nous trois, donc vous avez vu le torse bombé de Ryu dans cette annonce avec un petit peu d'indifférence, j'imagine. Non, même pas. Voilà, tellement d'indifférence.
Oui,
que
non, moi j'ai tout de suite pensé à Hotshot 2, tu vois. Donc j'ai sorti mon plus beau montage de Topper Harley qui se met son bandeau rouge là sur les yeux.
C'est un petit peu ça.
Et voilà.
Ouais, bah Street Fighter 6, alors certains disaient mais cette annonce de Capcom ça va pas être Street Fighter 6, c'est pas possible, peut-être Resident Evil 4 remake, un truc comme ça. Et bon, c'était Street Fighter 6, c'était pas non plus la plus grosse annonce de l'histoire, puisque ils ont juste montré un petit trailer pour dire le jeu arrive, on vous donnera plus de nouvelles cet été. Donc il y a vraiment pas grand chose, si ce n'est que on a Ryu qui est là comme toujours, avec des proportions encore plus impressionnantes que dans les épisodes précédents. C'est un teaser en image de synthèse, donc on n'a vraiment aucune information sur le look du jeu, sur quoi que ce soit. Et on a Luke, qui est le dernier personnage de Street Fighter V, qui après quoi 5 ans de vie est devenu un jeu vraiment apprécié des fans, après un lancement un petit peu compliqué, en 2016 je crois. Et donc, il a juste été annoncé sans aucune information. On a vu le logo quand même, dont certains se sont empressés de trouver un équivalent dans une banque de données Adobe. Ils ont dit « Oh, Capcom a utilisé un logo à $80, quelle honte !» Évidemment, il y a tellement de choses créées partout dans le monde. Tu as un logo qui ressemble à un autre logo, c'est pas si surprenant que ça. Bon, le logo est très simple, je sais pas si je peux le trouver quelque part. Le logo est très simple, effectivement. Je pense que la controverse du truc est un peu ridicule.
Moi, je trouve que ça résume bien, tu vois, l'annonce de Street Fighter. En fait, les gens, ils ont juste parlé du logo pendant 3 jours. Ouais. Tout le monde n'en a rien à foutre du jeu, c'est pareil.
C'est pas on n'en a rien à foutre du jeu, c'est qu'ils nous ont donné aucune autre information que le logo.
Donc, bon, à partir de là...
Je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup à foutre de Street Fighter.
Bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui attendent, hein. Ça, j'en doute pas.
Et d'ailleurs, le logo, c'est un hexagone. 6 côtés, Street Fighter 6. Tu vois, il y a de la logique interne quand même dedans. Moi, je trouve que c'est extrêmement intelligent. Bon, non, je le trouve pas super beau, le logo. Mais bon, avec sa petite notification, tu sais, c'est SF, t'as 6 notifications sur le logo. Ah, merde, faut que je check mon téléphone.
Ouais, en plus, ça a fait penser, tu sais, on dirait la typo de Rainbow Six, enfin... Bon, voilà.
Un petit peu, ouais. Je trouve que, disons que le logo est pas super heureux, mais effectivement, c'est le truc dont on a à parler parce qu'on a aucune info sur le jeu lui-même. Évidemment, moi, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Street Fighter, c'est vraiment la série de jeux de combat iconique et historique. Le changement de logo par rapport à la typo ancienne qui commençait à dater un petit peu, hein, ce truc au pinceau, il date vraiment. Mais oui, on attend énormément de ce jeu parce que le 5 s'est lancé avec tellement de controverses et tellement de problèmes. On se dit, en plus, c'est plus tout à fait... Bon, d'une part, c'est plus le même producteur et puis c'est même plus le même Capcom. C'est un Capcom qui a, un petit peu comme une grosse partie de l'industrie japonaise, a vraiment su se trouver entre les Monster Hunter à succès phénoménaux, les Resident Evil qui marchent super bien. C'est une société qui a su se retrouver après une période de creux Et donc, je suis très curieux de savoir, enfin, de voir ce qu'ils vont réussir à sortir avec un sixième.
Oui, pour ça, je suis d'accord. C'est vrai que ça fait quelques années qu'ils font vraiment des gros jeux très cool. Même visuellement, ils ont un super moteur. Enfin, tu sens qu'ils sont sur leur, qu'ils sont sur leur petit nuage, quoi. En plus, ils ont du pognon à plus savoir quoi en faire avec Monster Hunter. Donc, s'ils peuvent y mettre les moyens pour Street Fighter, ça peut être cool. Hein. Faut voir.
Ce qui est, d'ailleurs, il y a un truc qui a été noté. On dit qu'on n'a rien à dire sur le trailer, mais en fait, il semblerait, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais il semblerait que le trailer soit doublé avec du lip sync, enfin que les lèvres bougent sur le doublage anglais, alors que jusqu'à maintenant, c'était fait sur le doublage japonais. Et je crois que ça, c'est, si on veut aller chercher un petit peu la petite bête, c'est notable aussi parce qu'ils ont réussi à trouver dans leur dernier jeu un vrai équilibre entre le Japon et leur identité japonaise et le fait de réussir vraiment à plaire à un public plus large en Occident, ce qui est nécessaire quand on veut rentabiliser des jeux qui coûtent de plus en plus cher. Et je me demande si, dans ce contexte, ils vont pas implémenter un truc qui marche très bien dans les jeux de combat occidentaux, notamment les jeux de Neversoft, les Mortal Kombat, c'est-à-dire des expériences solo qui sont vraiment bien conçues et vraiment plaisantes, en plus d'un compétitif bien ficelé. Donc, bref, à voir. On en saura plus cet été, soit à l'Evo, soit à l'E3, enfin le Note 3, l'E3 qui n'est pas l'E3, on verra. Donc, bah écoutez, voilà pour les deux petites news, hein. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps, on va maintenant parler de nos jeux du moment. Avec une petite musique sympathique, les jeux du moment, et je crois qu'il n'y a pas de musique plus appropriée pour commencer à parler d'un des jeux les plus, comment dire, heureux, sympathiques, drôles qu'on aura cette année. Je veux bien sûr parler de Elden Ring. Et on a donc Exerve qui est là, grand spécialiste devant l'éternel des jeux From Software. C'est un petit peu les jeux, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je vais le mentionner, mais c'est un peu les jeux qui définissent ta carrière, hein. Tu t'es fait ta vie de, je ne vais pas dire influenceur, mais de YouTuber sur les premiers Dark Souls avec des guides. Et c'est surtout pour ça qu'on te connaît aujourd'hui, je crois, même si tu fais beaucoup d'autres choses. Et donc, Elden Ring, qui est un... C'est difficile de le définir, mais je vais te laisser en parler, tu le feras mieux que moi. Mais j'ai l'impression que c'est un jeu... Il y a eu beaucoup de jeux From Software, que ce soit les Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Mais Elden Ring, c'est vraiment une étape au-dessus, puisque c'est la promesse pour From Software d'entrer dans un univers qui est compliqué et une promesse qui est difficile à réussir, qui est celle, évidemment, de l'open world. Donc, pour résumer très simplement, on peut dire que Elden Ring, c'est From Software rentre dans l'open world, et d'après tout ce qu'on voit, toutes les reviews qu'on a commencé à voir hier, eh ben, c'est une réussite assez éclatante. Juste pour donner une idée simple de la chose, il est en ce moment à 97 de Metascore sur Metacritic. Donc, c'est au-delà de ce qu'on voit généralement pour les jeux From Software, qui sont, il y a une question là-dessus, mais ils sont toujours testés par des amateurs du genre. Et là, on est à 97, qui est évidemment l'un des meilleurs scores de l'histoire de Metacritic. Ce que ça veut dire, au-delà du score lui-même, c'est qu'il y a vraiment un plébiscite du jeu, et que tous les journalistes qui ont mis les mains dessus semblent être d'accord pour dire que bah, c'est une réussite assez éclatante de From Software. Donc je me tais, je parle trop, je laisse Benoît nous en parler. Qu'est-ce que tu as pensé de tes quelques heures ?
J'ai pas de speech, hein. Tu peux me poser des questions au contraire. Mais, de toute façon, clairement, le jeu, c'est... moi, j'ai pu y jouer depuis novembre avec la bêta, j'avais pu y jouer quelques jours en avance... justement pendant la bêta, il y avait eu une preview là où j'avais pu tester du coup ce coup-ci le jeu complet il y a pas il y a quoi, il y a 15 jours, un truc comme ça. Bon, le jeu vrai complet, on l'a pas reçu, on a été un peu puni en Europe par rapport aux États-Unis, donc on l'a reçu un peu plus tard, mais du coup là j'ai pas encore des milliers d'heures dessus, mais ouais, c'est de toute façon je vais m'autociter, c'est un putain de chef-d'œuvre, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de ma vie, voilà, enfin je sais pas, tu vois, moi je le sais depuis des mois, hein, c'est-à-dire que je le criais pas sur tous les toits parce que enfin je sais que je peux facilement sur-hyper un truc, mais maintenant que les scores sont sortis et que tout le monde est d'accord pour pour dire que c'est un des meilleurs jeux qui soit jamais sorti, ben voilà, on peut commencer à partir de là si tu veux, je sais pas.
Bah alors, tu sais quoi, je vais te poser une question, on va revenir sur l'aspect vraiment chef-d'œuvre, jeu consensus, sur la question de... C'est un open world, il y a une formule qui est un petit peu différente de celle des jeux FromSoft auxquels on est habitué, parce que vraiment, au-delà des... Bon, il y avait des différences, évidemment, hein, système de combat pour Sekiro et Bloodborne, contexte, ambiance. Là, on a vraiment quelque chose qui est de conception, de design qui est très différent, et on pourrait se dire, la question est légitime, si est-ce que le jeu s'ouvre à des types de joueurs qui n'ont peut-être pas qui n'ont pas réussi à rentrer dans les jeux FromSoft précédents avec cette structure open world, est-ce que c'est plus accueillant, plus invitant, ou est-ce que ça reste quand même très fidèle à l'esprit et au challenge, à la difficulté des jeux FromSoft, ce qui fait que bah, si on n'a pas été client des précédents, ça restera quand même un petit peu la même histoire, au-delà de peut-être la balade dans l'open world lui-même. Je pense que c'est la question que se pose la plupart des auditeurs qui ne sont pas déjà clients du jeu et qui ne l'ont pas déjà acheté, quoi.
Ouais, juste pour info, ta vidéo spoiler free, elle spoil pas mal en fait.
D'accord.
Donc je sais pas si tu veux laisser ça aux gens parce que ça montre des boss que tu vois pas avant.
D'accord. Je passe.
Mais oui. Alors je suis pas. Je vois pas pourquoi du moment que ça serait un jeu open world, d'un coup, il deviendrait plus accessible. Ça, a priori, je vois pas le rapport. C'est juste que ça peut par contre toucher un plus grand public parce que ça, open world, en termes d'argument marketing, tu dis ça aux gens, en général, ça marche bien.
Bah, je crois
par
que
contre, pour, c'est clair que...
Pour répondre à cette question, pourquoi est-ce que ça toucherait un plus large public ? Je crois qu'il y a cette idée que si c'est en open world, tu vas avoir plus de choix et donc te dire, bon, bah, là, c'est un petit peu trop difficile pour moi, je vais aller ailleurs dans l'open world, je vais aller explorer leveler un peu.
C'est un argument de gens qui ont déjà le jeu et qui sont en train d'y jouer. C'est pas un argument de gens qui n'ont pas encore le jeu et qui veulent y jouer. Tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire que non, moi je me pose la question.
Jeu, effectivement, tu es plus libre, mais pour quelqu'un qui l'a pas encore acheté, savoir que c'est Dark Souls mais en version open world, c'est sûr que de loin comme ça, c'est pas excessivement rassurant. Du coup, ils ont fait le max pour que au niveau de leur communication, ils essayent de montrer que c'est peut-être un peu plus accessible. Et ce que je vais dire, c'est que là, après du haut de mes 25-30 heures de jeu, maintenant c'est un jeu qui est à la fois plus difficile que tous les autres jeux From Software et à la fois plus facile. C'est-à-dire qu'en gros, comme tous les autres jeux From Software, la difficulté, elle est modulable par tes choix. C'est-à-dire que c'est toi, en tant que joueur ou joueuse, tu vas choisir d'utiliser des outils à ta disposition ou non. Là, dans Elden Ring, ils sont beaucoup plus évidents. Ils sont présentés de manière explicite. Il y a des petits tutos, il y a des machins. Donc, le jeu t'explique comment tu peux potentiellement te faciliter les choses. Et
est-ce que je peux donner un exemple de ça, de comment tu peux...
Je finis. Et si tu l'utilises pas, à l'inverse, du coup, bah, tu auras un challenge beaucoup plus gros, quoi. Voilà. Et donc, pour donner un exemple, là, on l'avait vu dans la petite vidéo, le fait de pouvoir invoquer des monstres un peu façon Pokémon, on va dire. Tu peux invoquer des monstres pendant un combat qui vont se battre pour toi. C'est un objet que tu vas pouvoir améliorer pour qu'ils gagnent en dégâts au fur et à mesure de l'histoire, etc. Tu peux très bien choisir de ne jamais les utiliser et, du coup, rien que ça, ça va te mettre un petit malus supplémentaire pendant les combats, par exemple.
Ouais, si tu l'utilises pas. Du peu que je sais des Dark Souls, il était quand même possible de faire des builds spécifiques qui sont un petit peu plus cheesés que d'autres. Tu peux quand même te leveler un petit peu et puis retourner à un boss pour avoir un petit peu moins de mal. C'est ce genre de choix que tu vas devoir faire pour peut-être t'imposer la difficulté, ou est-ce que ça va plus loin ?
Ah ben non, ça va plus loin. C'est après, t'as plein d'autres outils. Tu peux te fabriquer pas mal d'objets. T'as évidemment tout ce qui est invocation d'autres joueurs. Si tu veux jouer en ligne, le mode en ligne, il fonctionne plutôt bien pour une fois, ce qui est mieux que d'habitude. D'ailleurs, ils ont installé ils ont résolu a priori leur problème là de piratage qu'il y avait l'autre fois. Et t'as plein après de petits outils. J'ai pas forcément rentré dans tous les détails parce que c'est pas c'est pas si passionnant que ça. C'est juste que selon les choix que tu vas faire, bah, tu vas pouvoir te dire, bah, plutôt que d'utiliser cette arme-là, je vais peut-être utiliser une attaque magique un peu plus puissante, qui m'a l'air un peu plus intéressante et qui effectivement fait plus de dégâts ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, c'est toi qui choisis en fait, en fonction de ce que tu veux faire avec ton perso, de moduler ta propre difficulté. Ce qui est intéressant en fait par rapport au précédent, c'est que peu importe le choix que tu vas faire, ils ont réussi à faire en sorte que en termes de sensations manette en main, c'est fun. C'est-à-dire que historiquement, jouer magie, tu vois, dans les Dark Souls, c'est très fort. Tu peux one-shot des ennemis, voire des boss assez facilement, mais tu te fais chier. C'est-à-dire que tu appuies sur un bouton, tu attends que l'animation se finisse. Là, ils ont essayé de rajouter un petit peu des nuances. Tu vas devoir gérer un peu plus les temps de charge de chaque sortilège, etc. Donc, tu as un vrai gameplay autour de ça. Et c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Après. Je pense que, enfin, je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'il est plus accessible. Moi, je le trouve plus difficile. Il y a des boss, ils sont infernaux, quoi. Ils vont à une vitesse folle. Enfin, c'est vraiment, il y a des endroits, ça rigole zéro, hein. Et pourtant, tu vois, enfin, je veux dire, je roule sur les autres jeux sans problème, quoi.
D'accord.
Donc, il faut pas croire que d'un coup c'est devenu facile. C'est le pire truc à se dire si vous aimez pas à la base, parce que vous risquez de tomber de très très haut.
C'est un peu l'impression que j'ai eue. Il y a des boss par lesquels tu dois passer. C'est pas que genre ils sont perdus dans un coin. Tu dois y aller. Et là, que ça soit facile ou difficile pour différents joueurs, bah, c'est vraiment les mécaniques, l'esprit Dark Souls. Et t'as pas le choix. C'est pas que tout à coup la nature du jeu change, c'est ça?
Ah bah non. Surtout que voilà, c'est ça. Ça reste toujours un jeu où tu gères ton endurance, tu gères ton placement, tu dois gérer tes timings d'attaque, les fenêtres que l'adversaire te laisse pour pouvoir le taper. Et le truc, c'est que là, en termes d'animation, ils ont encore fait quelques progrès par rapport à Sekiro, qui était déjà très impressionnant. Et du coup, bah, les ennemis, ils abusent aussi de nos habitudes. C'est-à-dire qu'ils se jouent de nos réflexes de joueurs de Souls pour nous prendre à revers, etc. Donc, c'est pas garanti. C'est pas, tu vois, même là, même avec toute l'expérience qu'on peut avoir, il y a des petites subtilités dans la façon de gérer les combos, les choses comme ça, qui font que même quand on a l'habitude, bah, on doit quand même réapprendre un petit peu le jeu, quoi.
D'accord. Donc ça renouvelle l'expérience pour les gens qui ont l'habitude. J'imagine que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, bah, ça reste un moment où il va falloir s'y mettre sérieusement, quoi. Bon.
Mais par contre, c'est vrai que bon, pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui a envie de découvrir le truc, il y a moyen quand même de passer un bon moment. Et puis surtout derrière, c'est que le jeu en lui-même, ce qu'il a à proposer en termes d'exploration d'univers et tout, c'est taré, quoi. Enfin, c'est juste taré. Quoi, tu vois,
parce que ce sur quoi s'accorde et le parallèle avec Breath of the Wild est assez facile à faire parce que il est lui aussi sorti une semaine ou quelques semaines après un jeu Horizon qui cette fois-ci je crois a quand même reçu les honneurs qu'il méritait. Horizon 2 a été plébiscité par la critique là où le 1 avait peut-être été un petit peu en sous-marin à l'époque, mais cette comparaison se fait aussi parce que c'est un truc qui est complètement dans l'open world. Et ce que j'en lis et ce que j'en vois, c'est que c'est au-delà de, bah, c'est juste un Dark Souls en open world. Il a vraiment une proposition qui a enchanté les gens qui y ont joué, les journalistes et les reviewers. Et du coup, bah, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui fait que la proposition fonctionne tellement? Qu'est-ce qui séduit les gens? Pourquoi est-ce que c'est un jeu qui, alors qu'on aurait pu se demander, est-ce que ça va être un open world comme on en a déjà vu, il est vraiment plébiscité, quoi.
En fait, c'est juste que l'open world aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise pour beaucoup de jeux, mais en gros, c'est un spectre. C'est-à-dire que tu vas avoir deux extrêmes. Tu vas avoir d'un côté Skyrim, Breath of the Wild, qui sont des jeux vraiment très ouverts, très libres, où tu peux te perdre, te balader, vraiment y aller un peu comme tu veux. Au milieu, tu vas avoir GTA, qui est un peu l'open world à papa, qui a pas changé d'un iota depuis 30 ans. Et tout à gauche, là-bas, t'as, ou à droite, je m'en fous, t'as les open world à la Ubisoft, qui sont du coup, aujourd'hui, la forme qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire les tours, les camps d'ennemis, les checkpoints partout, les points d'exploration, les points d'interrogation partout. Alors que là, il y a la même idée de design qu'il y a dans Breath of the Wild, qui est toute conne, mais quand t'ouvres ta carte dans Elden Ring, il n'y a pas des points d'interrogation. Par contre, quand tu découvres un truc, là, il apparaît sur ta carte et tu peux y retourner par la suite. C'est l'inverse, en fait, des open world à la Ubisoft, où en gros, tu ouvres ta carte, t'as des points d'interrogation partout, c'est étouffant, et en gros, c'est une checklist, tu dois remplir les trucs, quoi. Donc, c'est vrai que là, la comparaison avec Breath of the Wild, elle est pertinente. Par contre, dans les faits, ce qui est assez impressionnant, et c'est pour ça, je pense que le jeu, il a autant surpris, c'est que dans les faits, la structure, elle ressemble à ce qu'on a dans les Assassin's Creed. Il y a des camps de bandits, il y a des petites activités annexes, etc. C'est juste que c'est intégré de manière très intelligente avec l'univers du jeu. Tu te rends même pas compte que t'es en train de rentrer dans une activité annexe ou quoi que ce soit, parce que t'es juste là, ah tiens, bah, il y a un cimetière ici. Sauf que les cimetières, en fait, ils ont un rôle très particulier dans le système de jeu, et tu le découvres qu'au fur et à mesure des heures. Donc ils ont en fait twisté la formule, et ils ont pris, j'ai l'impression, un peu le meilleur des deux mondes, si tu veux.
C'est un truc qui me parle un peu. La grande question que je me pose au début de cet épisode, c'est est-ce que je vais être intéressé par Elden Ring, et est-ce que ça va me séduire suffisamment pour que je tente encore une fois l'expérience? Je pense que je vais tenter de toute façon, mais là j'ai l'impression, enfin ce que tu dis me parle, c'est qu'on a cet esprit vraiment de découverte d'un open world qui est pas... En fait... Je cherche mes mots en expliquant, mais open world, c'est vraiment un terme de game design. C'est devenu un truc, on dit open world, on sait le spectre dont tu parles, à peu près ce que ça veut dire. Là, j'ai l'impression que ça va plus loin, un petit peu comme Breath of the Wild, ou plutôt, c'est la question que je te pose. C'est, on repart à la base de l'intention de créer un monde à explorer.
Ouais, c'est ça.
Et on réussit à donner cette sensation au joueur qui est, bah voilà un monde, et puis vas-y, fais tes trucs, quoi. C'est ça que tu veux dire.
Ouais, complètement. C'est vraiment... t'es vraiment lâché dans un truc qui est immense. Enfin, je veux pas spoiler, mais c'est gigantesque. La zone de la bêta à laquelle on avait accès, c'est même pas 10% de la carte globale. Et encore, je compte que la surface du sol, puisqu'il y a des trucs souterrains et autre chose. Mais c'est taré, la quantité de contenu qu'ils te proposent. Et puis en plus, c'est non-stop, quoi. C'est-à-dire que t'es tout le temps en train de regarder des trucs, ça a l'air trop beau, t'as envie d'y aller, t'y vas, et sur la route, tu vas trouver plein de choses, etc. Et c'est vrai que dans ça, on peut retrouver exactement la même approche qu'il y avait dans un Breath of the Wild, quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve ce côté, tu vas partir à l'aventure, tu vas te faire ton histoire, tu vas te perdre des dizaines d'heures dans un univers absolument incroyable où tu vas essayer de comprendre un peu ce qui s'y passe parce que tu vas tomber sur des trucs. Enfin, il y a vraiment des endroits où c'est... j'ai tout le temps ma gourde à côté de moi parce que j'ai la bouche ouverte en permanence quand je suis en train de jouer, quoi.
Graphiquement, ou sur ce qui se passe dans le monde ?
Non, sur ce que je vois, tu vois, sur ce que je vois, sur les idées qu'ils ont eues, sur ce qu'ils arrivent à mettre en place en termes de mise en scène, en termes d'environnement, c'est taré. On n'a jamais vu ça. Tu vois, je veux dire, demain, tu vois, les gens qui font du jeu de rôle papier, moi, c'est ce que je disais avec un pote qui est rôliste, tu joues à Elden Ring, tu fais des jeux de rôle pour 4 générations à venir. Il y a tellement d'idées au mètre carré, c'est taré, quoi. C'est un mélange du Seigneur des Anneaux, un mélange de Warhammer, il y a des trucs, il y a un mélange évidemment de Cthulhu, on retrouve bien sûr les classiques, enfin, il y a beaucoup de Dark Fantasy à la Conan, etc. Enfin, c'est un mélange de tellement de trucs, le tout en plus est ultra cohérent, parce qu'ils arrivent à garder un niveau visuel qui est incroyable, et le genre là de décor qu'on voit, ça c'est la deuxième zone du jeu. Le screenshot, c'est juste la deuxième zone du jeu. Ce que tu montre, c'est le lac, voilà, c'est la zone du lac, il en reste je sais pas combien encore à découvrir.
Tu dis on n'a jamais vu ça, j'aimerais qu'on se focus sur cet aspect, parce que c'est un truc qu'on a entendu de plein de journalistes. On n'a jamais vu ça parce que c'est, comme on disait, graphiquement des choses surprenantes, des idées intéressantes, dans l'histoire, dans le type d'activité qu'on va faire. Qu'est-ce qui est vraiment qu'est-ce que tu y as trouvé que tu n'avais pas trouvé ailleurs dans le jeu vidéo ?
Ouais, rien que dans les choix d'environnement déjà, ça clairement. Alors c'est vrai que de loin tu te dis bon bah il y a des montagnes et des châteaux, mais c'est juste que déjà ils ont une gueule, il y a un sentiment, il y a une notion aussi d'échelle. Tu vois, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais c'est tellement immense. Quand tu vois que tu vas d'un endroit et que tu te dis tiens, je vais monter en haut de cette tour et ça va te prendre un temps fou, et que tu arrives enfin en haut et que tu vas découvrir des tonnes de choses, t'as vraiment comme ça cette sensation d'être en train de vivre une énorme aventure, quoi. Donc, et je vois Kassim qui demande si je peux donner des exemples précis. Ben non, parce que justement, j'ai pas envie de vous spoil des trucs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que personne ne ment, c'est incroyable, vraiment, ça n'arrête pas. Et encore une fois, j'ai fait à peine un tiers du jeu.
La narration dans les jeux de ce que j'ai essayé, c'est assez léger, c'est des petites touches, c'est des situations que tu vas comprendre au fur et à mesure. Est-ce que c'est le même type de narration, ou est-ce que parce que tu explores un monde où il s'est passé des choses, je sais pas, j'ai l'impression que dans un monde ouvert, peut-être qu'on en aurait un petit peu plus directement de la narration. Ça se passe comment à ce niveau ?
Non, Non, c'est toujours la même chose. C'est d'ailleurs un des bons conseils. Je voyais Jason Schreier là, qui disait ça hier, et moi je le dis aussi dans ma vidéo là, qui sort tout à l'heure. Prenez un calepin, achetez-vous un carnet de notes, prenez des notes parce que le jeu il en a rien à foutre de ce que vous avez retenu ou pas. Il n'y a pas de carnet de quêtes, il n'y a pas de machin, et pourtant des quêtes on en récupère tout le temps, mais on ne s'en rend pas compte parce que c'est intégré de manière, c'est intégré de manière intelligente au jeu.
Et, mais comment c'est intégré du coup s'il n'y a pas de carnet de quêtes? Comment on fait pour ce. Tu vois, si tu récupères.
Il y a quelqu'un qui te dit d'aller faire un truc, si tu vas le faire ou t'oublies, mais tu fais ce que tu veux.
D'accord.
Tu peux y aller, tu peux pas y aller.
Ça, mais il va pas, tu vas pas, et tu reviens vers lui après pour dire ça y est, j'ai attrapé la lanterne qui était là-bas et file-moi 3 pièces d'or, tu vois.
Ouais. Il n'y a pas mais une si seule quête qui est aussi naze que ça, mais après.
Mais si
tu
n'y retournes pas, il va pas t'appeler, quoi. Il va
pas t'appeler. Encore une fois, je ne peux pas donner des exemples précis. D'accord. Parce que c'est un univers Souls. Donc, il n'y a jamais un moment où quelqu'un va te dire va faire ça, et tu vas le faire, et voilà, ça se passe bien. Non, ça ne se passe jamais comme ça.
D'accord.
Il n'y a jamais un moment où ça va se passer comme ça. Quand tu vas revenir, si je peux vous donner un exemple d'une quête qui est vraiment quasiment au tout début, t'as une nana qui est en train de fuir un château qui te demande d'aller éventuellement essayer de voir si tu peux sauver son père parce qu'il y a une attaque de démons dans le château. Tu vas dans le château, t'arrives à trouver le père, tu lui dis que sa fille est en vie, donc t'essayes de le raccompagner, machin, et pas de bol, sa fille, elle est morte sur le chemin du retour, tu vois. Donc, au final, toi, t'as fait ta quête, mais t'as vécu un truc. T'as pas un petit truc qui te dit ding et bravo, tu as fait une quête, voici 5 points d'expérience.
Ouais. Mais il y a de l'expérience, comme dans les Dark Souls, il y a des objets, il y a des. Au niveau gameplay.
Bien sûr. Ouais. Ça change rien.
D'accord.
Ça change pas. C'est juste que tout est intégré de manière complètement. T'as l'impression d'arriver dans un monde, tu ne connais pas ses règles. Tu connais pas. Les enjeux qu'il y a derrière, il y en a plein, il y a plein de factions, il y a plein de pouvoirs qui s'opposent, et toi au début tu sais pas du tout trop pourquoi t'es là. Par contre en termes de narration aussi, ils ont fait des efforts, c'est-à-dire que t'as beaucoup plus de cinématiques, t'as beaucoup plus de moments qui sont vraiment expliqués, rien que les cinématiques d'intro des boss principaux, elles sont à tomber par terre. T'as des personnages, en fait, au bout d'un moment, quand t'arrives justement dans la zone, là qu'on voit dans le screenshot, en gros quand t'as fini la première zone du jeu, tu vas arriver à la zone de la table ronde, puisque du coup il y a une zone de la table ronde, ce qui est une sorte de hub où il va y avoir quelques PNJ, tu vas pouvoir réparer tes objets, il y a pas mal de petites quêtes, des trucs à faire à l'intérieur. Et du coup, ça, c'est un endroit dans lequel tu vas pouvoir revenir régulièrement, et c'est là où il y a certains personnages qui t'expliquent un peu plus tes objectifs. Mais par contre, quand ils te les ont donnés, si tu les as pas notés et que tu sais plus ce qu'il faut faire, démerde-toi.
Ouais, j'imagine que c'est un aspect qui va être un peu controversé, comme les armes qui se cassent dans Zelda. Ça me surprendrait pas que
les armes se cassent pas dans celui-là.
Non,
c'est un truc qu'ils ont changé. Il y a plus de durabilité de tes armes, par exemple. C'est-à-dire que tu peux avoir une arme, tu peux la porter à l'infini, y a pas de problème, quoi.
D'accord.
Il y a plein de petites subtilités pour les gens qui connaissent beaucoup les jeux. Tu vois, il y a un truc que j'aime beaucoup pour vous donner un autre exemple de comment ils twistent un peu l'open world. Tu sais, il y a toujours des collectibles dans les open world. T'as des merdes à ramasser partout, des audiologues, des machins, des conneries. Eux, en fait, ils font popper de manière un peu random des petits crânes au sol que tu vois, mais qui sont intégrés dans le décor. Et en fait, si tu leur marches dessus sur le cheval, ça va te gagner un tout petit peu d'XP. C'est des petites conneries, tu vois, mais ça te fait une petite pulsation d'endorphine quand t'es en train de te balader. Et t'as pas un menu qui te dit vous avez trouvé 50 korogu sur les 650 korogu qu'il faut trouver, tu vois. Donc, tout est intégré comme ça, de manière vraiment fine, en fait. T'as pas de...
Question intéressante de la chatroom, la difficulté, enfin les niveaux des ennemis, c'est par zone ou il y a du scaling ou
c'est par zone. Hein. Tu peux très bien. D'ailleurs, le jeu volontairement, il y a des trucs un peu piégeux qui peuvent te téléporter à une autre zone sans que tu t'en rendes compte.
D'accord.
Et tu peux te retrouver dans un endroit où t'as rien à foutre. Mais vraiment, de toute façon, tu t'en rends compte tout de suite. Hein. Tu te prends des one shots de partout dans Elden Ring. Hein. Là, tout à l'heure, je me suis baladé juste aux alentours d'une grosse forteresse. J'ai cherché à rentrer. Je me suis pris un machin qui était 10 fois plus gros qu'un tronc d'arbre dans la tronche. J'ai pas compris d'où ça venait. et a priori, on m'a dit que c'était pas le bienvenu, quoi.
Ouais. Bon, du coup, j'ai une question. Ça me donne envie quand même tout ça avec les histoires d'open world. Est-ce que c'est très concret, hein, mais pour passer d'une zone à l'autre, genre pour passer la première zone, est-ce que le passage, c'est genre, il y a un gros boss et puis là, faut que tu le battes, t'as pas le choix? ou
non, non, tu peux y aller. Tu peux y aller. Enfin, non, non, il y a des passages. Il y a plein de façons de faire. Au contraire, c'est même assez impressionnant le nombre de passages qu'il peut y avoir d'une zone à une autre. Comme d'hab, en fait. De toute façon, je veux dire, le level design qu'ils sont capables de te faire dans un donjon, on sait à quel point ils sont forts pour faire des niveaux intriqués. Bah, tu prends ça, tu le grossis sur l'échelle d'un monde entier, et voilà.
Mais en fait, la question que j'essaye de poser, c'est est-ce qu'on peut explorer une grosse partie du monde, peut-être pas tout, mais sans être confronté à ces gros boss où bah là, c'est les choses sérieuses.
Bah, tu vas devoir zigzaguer entre des ennemis, ça c'est clair. Mais là, moi je l'ai fait justement pour me donner une idée définitive de quelle est la taille de cette putain de carte. Et j'ai passé 6 heures à juste me balader entre des ennemis et essayer de trouver des chemins et de comprendre ce que je pouvais faire. Parce que les ennemis ils vont pas te laisser passer, ils vont pas te dire bonjour, allez-y monsieur, c'est par ici. Ils vont t'embêter, mais il y a finalement assez peu de goulots d'étranglement obligatoires et tu peux vraiment énormément te balader avant d'avoir le sentiment qu'il y a un truc. Et en fait, il y a un endroit où vraiment le jeu il te dit ici, tant que vous avez pas ça, vous pouvez pas y aller. Des fois, il y a des endroits comme ça, mais je veux dire, dans les endroits importants, en gros, il te dit, bon là, tant que t'as pas fait tous les objectifs principaux, c'est pas la peine, tu peux pas y aller. Donc en gros, ça veut dire c'est la zone de fin. Mais avant d'arriver à cette zone-là, ça m'a pris, d'ailleurs je ne l'ai pas encore vu, mais je sais que ou à peu près où elle est, ça va me prendre encore pas mal de temps, rien qu'à me balader. Quoi.
Ouais, on parle de très nombreuses dizaines d'heures pour... Enfin, il y a des gens qui ont joué 50, 60, 80 heures.
Au bas mot, je pense que 50, 60 heures, je devrais le finir, et encore j'ai l'habitude. Tu peux doubler ça easy si tu veux tout faire. Et évidemment, après, s'il y a toutes les subtilités qu'il peut y avoir de quêtes, de machins, factions, enfin voilà quoi.
Bon, on pourrait en parler des heures. Le truc qui reste, on n'en a même pas parlé, mais parce que je crois que c'est une évidence, le gameplay en lui-même, la base, c'est ce qu'on connaît dans les jeux FromSoft, visiblement, je crois, une base vraiment Dark Souls plus que les autres. Il y a des choses qui changent. Tu parlais des familiers, il y a des sortilèges, enfin, il y a plein de choses. Mais la base, tu rencontres un ennemi au hasard, c'est Dark Souls. Dark Souls 3, d'accord.
La base, c'est pour les gens qui ont joué à Dark Souls 3, c'est globalement la même. Hein. On retrouve les mêmes idées. On a ce système de ce qu'ils appellent les weapon arts, c'est une capacité spéciale de chaque arme que tu peux déclencher contre un peu de points de magie. Là, c'est un peu différent parce que tu peux les intervertir d'une arme à une autre, donc ça rend le système encore plus intéressant, c'est pas du tout limité. C'est ce qu'ils appellent les cendres de guerre, et ça fait partie de ces outils justement que tu peux utiliser pour te faciliter un peu la vie. Donc, la base, essentiellement, ça reste du Dark Souls 3.
D'accord. Bon, bah écoute, moi je suis quand même très curieux, d'autant plus avec les critiques dithyrambiques qu'on entend depuis hier. L'un des trucs auxquels on réfléchissait ces dernières semaines avec Johan et d'autres dans le Discord, on se rend compte qu'en fait, moi je suis pas du tout client des Dark Souls habituellement. Dark Souls, Soulsborne, Sekiro, j'y ai joué, hein, mais ça m'a pas attrapé, alpagué. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé Sifu, j'ai fini Céleste, j'ai beaucoup aimé j'ai fait toutes les Valkyries dans God of War. Et du coup, on se posait la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ces expériences-là qui sont difficiles m'ont plu plutôt que alors que d'autres ne m'ont pas plu. Et l'un des éléments sur lesquels on s'était arrêté, c'était que tout ce qu'il y a autour m'avait encouragé à continuer. Sur Sifu, j'adore l'esthétique. Sur God of War, bon, il y avait tout le jeu que j'avais fait avant que j'aimais bien, etc. Et du coup, ma grande question maintenant, et je pense que je vais prendre Elden Ring pour le boulot et aussi pour m'en rendre compte par moi-même, c'est est-ce que tout cet univers qui a l'air réussi et captivant et dans lequel on peut se perdre, est-ce que ça va m'amener à vouloir faire les boss là où d'autres jeux de From ne m'ont pas séduit? Parce que je me suis rendu compte en fait récemment que c'est pas cette question de difficulté à d'apprentissage de pattern, tout ça, qui est vraiment le frein. C'est que j'ai
surtout
pas
Sifu,
autour
c'est plus difficile qu'un Dark Souls, hein.
Sifu,
ça demande des réflexes, mais ça te demande des réflexes assez vénères, hein, donc après t'aimes bien les jeux de combat en plus, donc de toute façon Sifu c'est quasiment un jeu de combat.
Ouais, bah non, mais c'est ça. Il y a toute une esthétique. On parle dans la chatroom de Death's Door aussi, qui sur la fin commence à être, bah, il faut reconnaître les patterns. Enfin, c'est un truc classique. Bref, on verra, mais c'était vraiment, on a un truc auquel on a réfléchi ensemble sur le Discord, une réalisation que.
Regarde peut-être pas, je sais plus lequel c'est, le trailer. Je sais plus si c'est le launch trailer ou celui qu'ils ont sorti il y a quelques jours, mais enfin, regarde les derniers trailers. Hein, si ça te fait pas rêver ce que tu vois dedans, bon, bah, c'est juste.
Mais je vais pas regarder. Je vais pas regarder. Je vais juste le prendre. C'est pour le boulot. Il faut que je. Tu sais, on en parlait aussi. Un jeu qui est tellement acclamé par la critique, que ce soit un jeu pour moi ou pas, bah, il faut que je le prenne, il faut que je sache de quoi il s'agit, tu vois, ne serait-ce que pour ma culture gaming en général.
Enfin, là, vous disiez en rigolant le GOTY de l'année prochaine, ça sera encore Elden Ring. Hein. Je vois aucun jeu. Non, mais je dis ça avec le plus sérieux du monde. Je ne vois aucun jeu annoncé en cours de développement qui pourrait rivaliser avec ça.
Bah, House Flipper 2. Malheureusement.
Ouais, non, mais en parlant, tu vois, je veux dire, blague à part, je disais ça sérieusement, je vois pas.
Oui, il faut.
Même un Breath of the Wild, tu vois, bon, ça sera Breath of the Wild 2, ils vont pas réussir à retwister la formule.
C'est possible,
ça, ouais. Quoi.
C'est possible. Mm-hmm. Mais enfin, il faut aussi mentionner un truc qui a été mentionné dans les discussions autour des critiques, c'est que. Il n'y a pas au monde plus grand client des jeux From Software que Exerve et les journalistes qui ont passé en revue les jeux. Évidemment, c'est des journalistes qui sont fans des jeux From et qui les connaissent bien, etc.
C'est tellement ridicule.
Non, je trouve pas ça ridicule. Alors, on a eu une grande discussion sur le Discord et moi, je me suis inscrit en faux sur l'idée qu'il faudrait donner les jeux à passer en review à des gens qui sont pas fans. Ça,
et
ça
regarde,
n'a pas
même
de sens.
Julien Chaise, mais... en y jouant pas, il arrive à dire qu'il est bien le jeu. Alors, ça va.
Non, mais c'est si tu me laisses finir, le truc, c'est que évidemment que quand on est client de ce type de jeu, un jeu va être plus, enfin on va être plus sensible à ce qu'il a à proposer, c'est évident. Mais là, le consensus est tellement important, je crois qu'il y a un truc quoi. Ça veut pas dire que les gens
Il y a Aubin, le youtubeur là qui était chez JVC, qui avait fait une vidéo très récemment où il a dit qu'il avait détesté Bloodborne. Et il a tweeté en disant que c'était incroyable et qu'il avait jamais vu ça en jouant Elden Ring. Julien Chiez, qui est mondialement connu pour ne pas jouer au jeu dont il parle, il a quand même trouvé ça bien. Donc je veux dire, en fait, c'est pas parce que on est fan, c'est fan parce que c'est bien. Dark Souls, c'est le jeu qui a défini les années 2010 du jeu vidéo. Il n'y a pas d'autre
jeu. J'ai dit
jeux,
un truc méchant sur Dark Souls, j'aurais pas dû, j'ai provoqué ce que je dis, Benoît, c'est que évidemment, les gens qui sont.
Toi.
Non, mais évidemment, les gens qui sont à la base des fans de Dark Souls et des jeux From en général, on peut imaginer qu'ils seront plus prompts à être séduits par la proposition.
Fans, tu vois, et comment ils sont devenus fans? Ils sont devenus fans parce qu'ils ont adhéré à l'histoire, parce qu'ils aiment le truc. Je veux dire, évidemment que tu donnes pas. Moi, tu me fais tester FIFA demain, je vais pas t'apporter un truc intéressant.
C'est exactement ce que je veux dire.
C'est évident que les gens dont c'est le métier, tu les fais jouer à ça. Mais moi, j'aime un tas d'autres jeux. Je ne joue pas qu'aux jeux From Software. Et c'est pas parce que c'est que des gens qui aiment les jeux que le jeu il est bien noté.
C'est exactement ce que je suis en train de dire. Mais il n'empêche, enfin, tous les jeux FromSoft, comme on le disait encore sur le Discord, généralement, ils sont notés par des gens qui sont fans des trucs et on n'a jamais eu de 97 général. Donc, clairement, il y a un truc. Mais il n'empêche, pour des gens qui sont pas clients de ce genre de jeu en général, et c'était de ça qu'on discutait, évidemment, si à la base, vous n'êtes pas fan de jeux de voiture, il y a peu de chances que vous soyez tout à coup séduit par Forza Horizon 5, même si c'est l'un des meilleurs jeux de voiture de l'histoire. Donc, il y a une deuxième vague d'expérience qui va arriver maintenant que le jeu va être dans toutes les mains. Et ce qui sera intéressant, ça sera de savoir si effectivement cette impression de jeu vraiment exceptionnel va parler même aux gens qui ne sont pas intéressés à la base, ou si ça va être un peu moins impactant pour ces gens-là. Et là, je crois qu'il y a une vraie question. Alors, un truc...
Oui, écoute, pose-la la question si tu veux. Moi, j'ai déjà la réponse, donc après, vas-y, pose-la.
Bah, on va voir. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est d'être séduit par Elden Ring.
Lundi, tu vas dans 100% des studios au monde, bon, sauf en Ukraine, malheureusement, les pauvres, mais tu vas dans 100% des studios au monde, les gens, ils vont parler de ça. Dans les 4-5 prochaines années, tu vas pas pouvoir faire une discussion avec des développeurs de jeux sans qu'on te parle d'Elden Ring à un moment donné. Ça a fait pareil avec Dark Souls, ça a fait pareil avec Breath of the Wild, ça a fait pareil avec The Last of Us. Tu vois, c'est des jeux comme ça qui marquent profondément les gens qui font les jeux. Et du coup, forcément, ça va se diffuser pendant des années, quoi.
On parlait de cinéma et on disait, dans tous les médias, il y a des jeux comme ça qui sont marquants pour l'industrie ou le média dans lequel ils évoluent. Et c'est des choses que les connaisseurs apprécient, mais auxquelles le grand public adhère pas forcément. Moi, je parlais de la nouvelle vague, par exemple. Je suis complètement hermétique à la nouvelle vague, mais il est indéniable que la nouvelle vague a été une influence massive sur l'histoire du cinéma. Mais ça ne veut pas dire que c'est des éléments qui vont plaire à tout le monde. Et je crois qu'un truc comme Breath of the Wild a vraiment fait consensus, y compris dans le public. Et il reste encore à voir si Elden Ring fera date dans le public général, au-delà des clients de FromSoft habituels, ou pas. Ça sent très bon, mais... Ce que disaient les gens, étant donné qu'à ce stade, il n'y a que des gens qui sont déjà réceptifs à ce type d'univers et à ce type de gameplay, forcément, ils ont aimé. La question, est-ce que les gens qui sont à la base pas réceptifs à ça vont être conquis aussi ou pas? Et cette question, je crois qu'elle n'est vraiment pas, à balayer. C'est pas un truc qui est... Je ne suis pas en train de dire il aurait fallu que toutes les rédactions donnent le jeu à tester à des gens qui ne sont pas fans. Au contraire, j'ai défendu l'idée inverse dans le... C'est évident qu'on va donner le jeu à tester à non, des gens
en fait,
qui sont,
si je
qui
dis
sont
ça,
fans.
Et je suis désolé si les gens, il y en a sur le chat, ils ne me connaissent pas. Ça monte toujours dans les tours ici. Mais c'est juste que... Attends, j'essaie de trouver les mots pour dire ça de manière diplomate. Des gens qui ne sont pas du tout réceptifs à ces jeux-là, à un moment donné, on s'en fout. Ils ont autre chose à faire. Ils ont d'autres jeux qui sont pour eux. Enfin, tu vois, le but d'Elden Ring, c'est pas de devenir universellement reconnu comme étant le meilleur jeu de la Terre. Tu vois ce que
mais
je veux
c'est
dire
pas la question. C'est pas la question. Tu le prends comme, j'ai l'impression, comme une attaque en disant,
mais
moi, ce que je pose,
je jamais,
jamais, comme des caresses, comme des bisous. Non, mais je pense vraiment que. Le fait de se demander, j'ai pas été client des jeux FromSoft jusqu'à maintenant. Ce jeu a l'air d'avoir une proposition différente, un petit peu différente. Je suis curieux de savoir si je serai client de celui-là. C'est une question qui est parfaitement légitime.
Non, mais ça, c'est une question.
Ça, on est d'accord.
Tu vois, c'est une question pour toi, mais à ton échelle. Mais est-ce que ça veut dire que le jeu serait moins bon parce que
tu n'arrives
pas à convaincre les. Non, mais laisse-moi finir une phrase. Si, est-ce que ça voudrait dire que le jeu est moins bon parce que des gens comme toi qui n'aiment pas ça d'habitude, ils aiment toujours pas? Non, ça changerait pas les qualités intrinsèques du jeu. Tu vois, moi j'aime pas FIFA, j'aime pas Gran Turismo ou Forza, et je sais que c'est des grands jeux, c'est juste que moi je m'en fous, tu vois.
Mais du coup, je vois pas l'intérêt de se poser
la question.
Mais parce qu'il y a des gens qui voudraient savoir si le jeu est pour eux ou pas.
On y a déjà répondu tout à l'heure. Le jeu est plus difficile que d'habitude. Et il est un peu plus accessible, certes, mais ça reste Dark Souls. Ça n'a pas changé fondamentalement dans l'esprit.
C'est ce que je disais là encore dans nos discussions. J'ai l'impression que les journalistes répondent à cette question effectivement et disent les gars, mais c'est dans l'esprit Dark Souls, quoi. Il est hyper exigeant, il est difficile. Donc on a la réponse.
C'est un truc que j'essaye de dire depuis l'autre jour. C'est que justement, au contraire, ils disent non, ça y est, c'est accessible et tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Justement, non. Moi, je préfère vous dire, si vous aimiez pas avant, économisez des sous, quoi.
Ouais. Écoute la réponse. Et Trinity, est-ce que tu vas économiser des sous? Est-ce que tu vas...
Alors, moi...
Ah non, toi, t'as un event tout à l'heure, donc...
Parce que le viewer me demandait mon avis. Moi, personnellement, je suis très, très fan de tout ce qui est From Software, même si ces dernières années, j'ai de plus en plus de mal à m'arracher les cheveux un par un sur les jeux, parce que je pense que c'est l'âge qui fait que j'ai beaucoup moins le temps et l'énergie de rester longtemps. Mais là, en fait, honnêtement, je suis hyper impatiente. J'avais eu l'occasion de tester... moi juste la bêta, je crois, qui avait été ouverte, etc., où on avait accès à une petite partie de la carte. Et effectivement, moi, j'ai ressenti quand même que, pour rester dans cette discussion, que ça restait dans cette âme de Souls, carrément, avec cette nouveauté d'open world. Mais moi, personnellement, j'ai adoré. Alors, pour rentrer un peu moins profondément dans le débat et dans les détails, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de tester à fond le jeu, je trouve que l'univers, en tout cas de ce que j'en ai vu, était très beau. J'ai beaucoup aimé le côté open world. J'ai été séduite par le peu de boss que j'ai pu croiser. En termes de difficulté, je ne saurais pas dire non plus parce que j'ai pas assez joué. Mais personnellement, par contre, je me suis surprise à pouvoir, pendant cette bêta, assez rapidement tuer un boss. Voilà, donc moi, ça a été quand même une surprise pour moi à me dire, attends, mais j'ai réussi à tuer un boss. Normalement, j'ai passé 10 ans. Mais bon, ce n'est que pour ce morceau-là. Personnellement, du coup, je vais pouvoir aller en savoir surtout un petit peu plus. Bah, ce soir, je fais la soirée presse de lancement du jeu. Et demain, je vais pouvoir attaquer tout ça. Mais moi, c'est le genre d'univers qui me parle beaucoup. J'aime ce qu'ils arrivent à faire passer sans mettre beaucoup de cinématiques ou beaucoup de dialogues, et que tout, depuis toujours dans From Software, tout soit un petit peu dans les détails, tu vois, dans le fait ouais, de lire.
La narration environnementale, presque.
Exactement. Ouais. Et effectivement, là où je vous rejoins, c'est que, ou en tout cas où je rejoins Xterve, c'est que je pense que si les gens sont à la base pas des grands fans, ou en tout cas c'est un peu dur pour eux, je pense que ça va pas être d'un seul coup hyper simple. Mmh. Ils vont se dire, ah ouais, ça change radicalement de ce qu'on voit d'habitude avec From Software. Mais si on a envie quand même qu'on était intéressé, qu'on a envie de se lancer un défi, pourquoi pas, mais effectivement, l'univers.
Sinon, le faire en multi, quoi, tu vois. Se trouver des potes et le faire à plusieurs.
Pour il marche comme un outil, du coup, c'est vraiment. On peut
c'est
l'explorer
un peu
à
comme
plusieurs.
D'habitude. C'est toujours un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est limité à une zone. Quand t'as fini une zone, tes copains qui t'ont aidé, ils se barrent et après, il faut les réinviter. Mais bon, bah, tu peux te créer tu te crées un groupe, en fait, si tu mets un mot de passe, tu mets, je sais pas, genre rendez-vous jeu, et tous les gens qui mettent rendez-vous jeu, ils vont pouvoir plus facilement voir tes marques d'invocation et tu vas pouvoir plus facilement les inviter.
D'accord.
Ok.
Bon, bah écoute, peut-être à tester.
Ouais, ça peut faciliter. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais fait Bloodborne et ça faisait très, 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 très longtemps que j'avais pas joué à un style un peu Souls comme ça. J'avais invité des gens quand c'était juste pour les boss, quoi. Et ça permettait quand même d'aider, on va dire, sur certains passages. Bon, après, j'ai décidé de faire Dark Souls 3 toute seule à 100%. Et ça, c'était une autre paire de manches.
Très bien. Bon, bah écoute, je crois qu'effectivement, la conclusion, malgré tout, du truc, il y a une sorte d'appétence pour d'un certain public qui voudrait, en fait, être séduit et vivre dans la hype des jeux From, qui se dit, et je le dis parce que j'en fais partie, qui se dit, bah, peut-être que Elden Ring, mais au final, comme vous le dites tous les deux, bah, ça reste dans l'esprit des Dark Souls, et comme le disent tous les journalistes, j'ai l'impression que dans tous les tests que j'ai vus, c'est, on voit dans le test de Victor Moisson sur le monde dans Pixels, le titre, c'est un jeu vidéo aussi âpre que sublime, c'est clair. Et on parle de difficultés, on parle de boss compliqués. Ouais, c'est, si on n'a pas été client avant, il est peu probable que la magie opère tout à coup par magie ici, mais bon.
Ouais. Mais ouais, c'est ce que je te disais au début, en fait. Hein. C'est, moi, je ne pense pas que ça puisse fonctionner. Le fait que ça soit un open world, ça ne va pas magiquement transformer le jeu. Au contraire, il est plus dur, il est plus long, il y a peut-être 6 ou 7 fois plus de boss que dans les anciens. Enfin, a priori, pour quelqu'un qui n'aime pas ça, il n'y a aucun argument pour. Par contre, si tu es un minimum sensible à ce délire de challenge et que ça ne te dérange pas de t'y investir, le jeu propose des choses qu'on n'a jamais vues avant. Et vraiment, je sais que dit comme ça et sans argument ou sans exemple, c'est compliqué, mais...
Non, mais c'est bien, j'apprécie l'absence de spoiler. Moi, c'est un truc qui me parle.
Et je fais attention parce que c'est chiant, tu vois. Je veux pas vous spoiler des trucs. Parce que justement, le plaisir
d'aller découvrir,
tu vois, c'est ça. Tu vois, voilà. Moi, je sais que quand je commencerai mes guides, je vais laisser passer un peu de temps parce que ça sert à rien de gâcher le truc des gens qui veulent se jeter dessus à la sortie. Ouais. Ce plaisir de découvrir des choses, d'avoir l'impression comme ça d'être dans un univers tellement fantastique qu'on ne voit pas dans d'autres jeux vidéo. J'ai pas un seul autre jeu qui me fait vivre un truc pareil.
Ouais.
Et je le redis, et je l'ai dit sur Twitter, bon courage à tous les studios qui vont faire des open world maintenant. Ouais. Parce qu'à partir de là, alors évidemment, les GTA, les machins, ça va se vendre. Mais là, chez Bethesda, quand ils bossent sur Skyrim 2 ou Starfield ou des trucs comme ça, je pense qu'après ce week-end, ça va transpirer sec. Hein, parce qu'il va falloir
qu'ils se sortent
les doigts.
C'est un moment Breath of the Wild C'est un moment Breath of the Wild pour toi?
Ah oui, mais évident.
Ouais.
Enfin oui.
C'est marrant parce que, évidemment, ce que tu dis est une... ce que tu disais tout à l'heure sur l'influence des Dark Souls dans l'industrie est une vérité bien connue. Mais peut-être que même si on ne retrouve pas un pour un ces éléments, bah, clairement, l'influence de Dark Souls, elle est indéniable. Il y a énormément de jeux qui sont passés à quelque chose de... Bon, enfin bref, on ne va pas reparler de l'influence des Dark Souls, mais elle est complètement indéniable, même si ça ne veut pas dire que tout le monde s'est mis à faire des Dark Souls. Mais par contre, les mécaniques et les éléments se sont trouvés.
C'est vrai que je comprends pourquoi ce n'est pas clair quand je dis ça. Ce n'est pas sur les mécaniques que je dis ça. C'est sur la construction du monde, sur le design, sur le sound design, sur le level design, etc. C'est sur ces aspects-là où ce n'est pas From Software qui transforme Dark Souls en open world. C'est From Software qui donne une leçon de comment on fait un open world à tout le reste de l'industrie. Ouais. Et ça, c'est un truc que je n'ai pas encore trop vu dans les tests, mais qui est développé ici ou là, et c'est de ça que je parle. Donc je suis désolé si c'était pas forcément très clair. Je dis pas demain tout le monde doit faire un jeu gameplay Dark Souls. Non, mais par contre, si
moi
demain,
je parlais de l'influence des Dark Souls effectivement sur.
Ouais. Non, mais c'est pour ça. Je me suis dit attends, il y a une confusion.
Mais complètement. Et l'influence, pareil, l'influence de Breath of the Wild, elle est évidente. Enfin, au-delà des copies un petit peu ridicules qu'on voit à droite et à gauche, il y a quand même une influence claire. D'ailleurs, j'imagine que Breath of the Wild a peut-être un petit peu inspiré Elden Ring, c'est possible. Mais bon,
oui, clairement. Bah, en plus, ils ont réussi à enlever, tu vois, des petites erreurs, des petits soucis qu'il y avait dans Breath of the Wild. Ils gomment comme ça des trois conneries au passage, ils rajoutent un peu leur idée à eux, et ça marche bien, quoi.
Bah écoute, on mettra peut-être les mains nous-mêmes dessus. Moi, je vais passer par, encore une fois, peut-être avec l'espoir que cette fois-ci ça m'attrape, mais au moins pour avoir vu un petit peu de quoi il s'agit. Puis on en reparlera pendant les mois.
Une vidéo qui sort à 16h où je donne plein d'astuces pour bien t'en sortir sur la toute première petite zone du jeu, histoire de faciliter les.
Ah bah parfait.
Et après, je vous laisserai vous débrouiller le temps que je finisse.
Super. Bah écoute, la chaîne d'Exerve 85, comme toujours. Bah merci pour cette longue discussion sur Elden Ring. Du coup, on va parler, il y a d'autres choses quand même qu'on veut évoquer.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Trinity s'est mise à Dying Light 2 et Food Truck Simulator. Food Truck Simulator, super important, bien sûr. Mais Dying Light 2, c'est marrant, je voulais te poser la question parce que j'ai vu que JK, qui nous en parlait il y a quelques semaines, est encore dessus. Et il prend son pied dessus. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui reprochaient, je crois, avec. Pas qui reprochaient, mais qui remarquaient qu'il tire ses racines du début de sa conception, qui a quand même une dizaine d'années. Donc on retrouve des éléments de design qui sont un petit peu, peut-être, archaïques aujourd'hui. Mais pourtant, il y joue encore. Et toi, tu y as mis les mains dedans aussi. Qu'est-ce que t'en penses, du coup, de Dying Light 2? Il est sorti il y a 3 semaines maintenant, je crois.
Ouais, c'est ça. Alors moi, bon, ça a été juste un peu particulier parce que j'ai pas pu le continuer. J'ai envie de le continuer parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Mais effectivement, pareil pour moi, début un petit peu mitigé. Tu vois, sur le jeu, quand les gens me posaient la question, j'étais là en live. Je leur disais, le jeu est bien. Bon, pas d'énormes prises de risque par rapport à Dying Light 1, un changement d'environnement, etc. Mais pour moi, il y avait pas non plus une étincelle de dingue. Alors, il faut quand même remettre en contexte, c'est-à-dire que moi, Dying Light 1, je sais que ça a été un jeu qui a été acclamé par énormément de monde, que moi, j'ai trouvé très cool, mais ça n'a pas été mon jeu de zombies, post-apo, etc. Préféré, mais je l'avais quand même vraiment apprécié. Dans celui-ci, on change quand même pas mal d'univers, enfin, en tout cas, de décor, mais étonnamment, eh bien, c'est un peu pareil. Et d'ailleurs, je citerai aussi mon conjoint, parce que mon conjoint est un énorme fan du premier. Et il est arrivé avec un peu cette a priori de « Ah, je sais pas trop, j'arrive pas à accrocher. » Eh bien, au fil du temps, à force d'y jouer et de faire les quêtes, eh ben je trouve qu'on se prend au jeu, c'est le cas de le dire. Et j'ai fini par vraiment apprécier, à avoir envie de continuer, de découvrir un petit peu plus l'univers, etc. Et mon conjoint, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il l'a attaqué, il a commencé à me faire des comparatifs, il me montrait, il me fait « Regarde là, la lumière !» Lui, il aimait bien le côté un petit peu dark, un peu gris qu'il y avait dans le premier, etc. Il trouvait pas qu'il y avait non plus une révolution sur le jeu. Eh ben je le vois dès qu'il peut, en train de jouer au jeu et en train de le continuer, parce que finalement, eh ben, on s'y prend. Donc, très honnêtement, ça a été... excusez-moi, mon chien s'excite derrière en même temps.
tu lui dis bonjour de notre part.
Et finalement, ça a été quand même... un jeu que j'aime bien faire et sur lequel je prends du plaisir. Et puis, il y a toujours quand même ce petit kiff entre la journée et la nuit où tout s'anime la nuit et tout devient beaucoup plus horrifique.
C'est le gameplay ou l'histoire ou qu'est-ce qui t'a accroché en fait, le fait d'explorer le monde avec, tu parles de alternance nuit et jour avec les zombies
alors,
qui sortent,
tout ça. Moi justement, ce qui m'avait séduite dans le premier, c'était ce côté la journée, on est sur quelque chose d'extrêmement dynamique et on a vraiment l'impression d'être plus, je mets des très gros guillemets, dans un style, tu vois, comme on a pu avoir avec les Dead Island, Dead Rising, ce truc où on explose du zombie, tout en ayant quand même des histoires super, qui finalement nous intéressent par la suite. Et la nuit, il y a vraiment ce côté très horrifique où on se sent beaucoup plus en pression. Donc moi, le gameplay, je l'ai toujours trouvé assez séduisant, mais finalement, c'est les petites histoires, les petites quêtes. Moi, je suis une très grosse fan de tout ce qui concerne les RPG et quand ça fourmille un petit peu d'histoires parallèles. Et là, il y en a. Alors après, je peux pas non plus parler. J'ai pas fait 50 heures sur le jeu, mais j'aime beaucoup ce côté. On se balade, il se passe des petits événements.
Le monde, quoi. Être dans le monde.
Et c'est ce que j'aime. Mais je préfère le dire, il n'en reste pas moins. Comment dire, ce n'est pas non plus pour moi le gothi, quoi. Tu vois, c'est que c'est un jeu sur lequel je passe un bon moment, c'est post-apo, c'est cool, etc. Mais est-ce qu'ils ont pour moi réussi à égaler le premier? J'en suis pas sûre.
Ah oui, d'accord, quand même. Il faut avouer que le premier était quand même une surprise, c'était une sortie, un succès sous-marin. Et bon, écoute, en tout cas, tu y prends du plaisir et je crois que tu n'es pas la seule. J'ai l'impression qu'en fait, au moment de la sortie, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ok, c'est cool, mais voilà, on l'aura oublié dans une semaine. » Et ce dont on se rend compte maintenant, c'est qu'il y a plein de gens qui continuent à l'apprécier, continuent à passer du temps dessus. Et peut-être même qu'il se retrouvera dans des listes de GOTY à la fin de l'année, donc...
Pour certains, oui, ça, j'en doute pas une seconde, mais c'est vrai que c'est... En fait, je pense que c'est un peu... Tu sais, c'est un peu ce côté, ça arrive sur certains jeux, c'est un peu lent au démarrage pour vraiment te mettre dedans. En tout cas, je pense qu'il souffre parfois un peu beaucoup de la comparaison forcément avec Dying Light 1, tu vois, donc on a tendance à vouloir faire cette comparaison, mais une fois qu'on est dedans, je trouve qu'il fait le taf, comme on dit, et on prend quand même pas mal de plaisir.
Dying Light 2 à garder à l'esprit du coup si vous aimez les jeux de zombies. Et alors la semaine dernière, le mois dernier, tu nous parlais de Gas Station Simulator. Cette fois-ci, c'est Food Truck Simulator. Donc on doit, c'est un jeu où on doit gérer un food truck.
Alors, vous savez, mon amour pour les jeux de simulation, je crois que ça va devenir ma spécialité avec les jeux d'horreur maintenant.
Moi, j'y connais que dalle, alors j'écoute parce que je connais pas du tout.
Alors, en fait, effectivement, là pour l'instant, il n'y a que la démo qui est disponible. Food Truck Simulator, c'est un jeu qui est fait, si je ne m'abuse, par le studio qui a fait Gas Station et qui sort pas mal de simulateurs, mais qui sont très bons en fait. Parce que dans les simulateurs, on a un peu tout et n'importe quoi, du très bon au franchement très mauvais. Là, en l'occurrence, bien écoutez, si vous aimez les jeux de simulation, je vous conseille vraiment d'aller tester celui-ci où on a notre food truck qu'on va pouvoir améliorer, etc. On a accès à une carte qui nous permet d'aller de point en point en fonction des horaires et tout simplement de vendre notre nourriture. Alors, il est assez complet.
Pardon, de point en point, c'est carrément un monde modélisé en 3D. Hein. On conduit le camion.
C'est ça. Exactement, ouais. C'est un mini open world. Hein. Là, on n'est pas du tout au niveau de Elden Ring. mais en fait, en fonction des zones où on va aller, donc par exemple, là, on voit sur la vidéo qu'on est dans un parc, mais parfois, on va être à la sortie des boîtes de nuit, etc. Eh bien, au fur et à mesure, en fait, on va débloquer des recettes parce que les gens ne mangent pas la même chose au parc que par exemple, à la boîte de nuit. Et en fait, on doit donc à la fois gérer nos horaires, on doit améliorer notre camion, acheter du matériel, faire nos courses pour pré-shot justement tout ce qui concerne les ingrédients et tout. Donc on peut après être en
ça,
rupture d'ingrédients.
Ça c'est en menu j'imagine. C'est en menu les courses. Tu vas pas aller jusqu'au magasin et faire tes courses avec ton caddie dans les allées du magasin,
non.
Si
non. Quand ouais, même. En fait, tu les commandes. Je ne connais plus le nom de la demoiselle, mais tu passes une commande et ensuite tu vas chercher. Par contre, à l'instar d'un Cooking Simulator, qui est un excellent jeu de simulation de cuisine, celui-là qui est assez connu, on va devoir préparer tout, c'est-à-dire découper les tomates, découper les oignons, etc., etc. Donc c'est quand même assez poussé, c'est un jeu qui mélange pas mal de types de gestion, donc la confection des recettes, la découpe, la gestion, etc. Donc vraiment, la démo est sortie le 21, n'hésitez pas à aller le tester, il est censé sortir cette année, et moi j'aime beaucoup ce studio qui a déjà fait Gas Station Simulator, qui était vraiment très très bon. Alors je sais que pour certaines personnes ils sont là mais comment des gens peuvent aimer jouer
ça a l'air assez complet hein, quand tu le présentes comme ça mine de rien. Non.
C'est hyper complet et moi j'adore, je passe des super moments dessus. Et puis il y a même des moments de stress, hein, tu sens le rush de quand il y a trop de monde qui arrive, qui te demande des recettes. Donc excellent jeu de simulation qui arrive prochainement.
C'est quoi, c'est genre un peu Cook Serve Delicious ce passage là ou c'est un peu différent quand même?
Ouais, il y a un peu ce côté là, mais Cook Serve Delicious, je me rappelle plus, mais tu sais, c'est vraiment de l'assemblage. Je sais plus si c'est toi qui prépare. Là, tu as vraiment tout le côté technique où tu dois utiliser ton couteau, découper, etc. Donc,
C'est au clavier et à la souris?
Oui, clavier et souris.
D'accord, donc tu manipules les trucs avec la souris pour couper tout ça. D'accord. Très bien, donc c'est Food Truck Simulator. Il y a une démo qui est disponible tout de suite sur Steam et il sortira un petit peu plus tard. Écoutez, moi j'ai également joué un petit peu. Alors je peux parler en quelques mots de Horizon Forbidden West, dont on a parlé il y a la semaine dernière déjà. Et donc j'ai passé un certain nombre d'heures dans Horizon Forbidden West. Je dois avouer que j'étais pas sûr. Je vais pas dire je pensais pas, mais j'étais pas sûr qu'il me happe autant et clairement moi je faisais partie de ceux qui avaient beaucoup apprécié le premier à sa sortie et qui est qui attendait le deuxième avec grande impatience. Et la formule fonctionne toujours super bien. C'est vraiment là où à l'époque Breath of the Wild et peut-être aujourd'hui Elden Ring changer la vision qu'on a de l'open world ou qu'on peut avoir de l'open world, Forbidden West, enfin Horizon, c'est vraiment on prend ce qui marche, ce qu'on sait, ce dont on sait que tout le monde aime, mais on va le faire super super bien. Et là c'est un petit peu la même chose. On a une première mission d'une heure ou deux qui est le pré-tutoriel, puis une première zone qui est le tutoriel, et puis une deuxième zone qui est beaucoup plus grande où on est un peu lâché et là on est vraiment un petit peu plus libre, et après ça s'ouvre vraiment. Et j'ai l'impression, alors j'ai pas beaucoup avancé encore donc je vais pas en parler trop, et puis de toute façon pour pas spoiler, mais j'ai l'impression que l'histoire se délivre vraiment sur la longueur comme c'était le cas pour le premier. Et on a une aventure qui prend son temps, vraiment. Et au-delà de ça, effectivement, ils ont complètement pris des notes sur ce que les gens n'aimaient pas. C'est ce qu'on disait la semaine dernière, ce que disait Thomas la semaine dernière. Ils ont pris des notes sur ce que les gens n'aiment pas et ils ont juste tout corrigé autant qu'ils pouvaient. Et pour pas refaire tout ce qu'on disait la semaine dernière, je vais mentionner deux choses. La première, c'est les scènes de dialogue qui sont, et on en a beaucoup entendu parler sur Twitter depuis que le jeu est sorti, qui sont incroyables. Ils ont fait de la motion capture pour toutes les scènes de dialogue, mais toutes, et de la motion capture dans des détails qui sont invraisemblable. On a des animations, pas juste du corps, parce que tout le monde bouge en fait dans l'espace, c'est pas juste deux personnages l'un en face de l'autre, en champ contre champ, qui vont pas trop bouger et qui ont des sortes d'animations de visage génériques, ce qu'on reprochait beaucoup au premier. Là, ils ont vraiment filmé toutes ces interactions comme dans un jeu comme The Last of Us au hasard, qui avait une animation vraiment excellente à ce niveau, mais dans un jeu à l'ampleur d'un open world comme, je sais pas, The Witcher ou un truc comme ça. Et du coup, quand on disait la semaine dernière que Sony a ouvert le portefeuille, mais c'est j'imagine même pas l'argent que ça a coûté de faire tout ça, parce que on a toutes les micro-expressions, les mouvements d'yeux, les petits plissements de sourcils, les lèvres qui bougent à peine, c'est incroyable. Les histoires sont engageantes, même les quêtes secondaires sont relativement intéressantes. Il y a une pléthore d'activités, il y a tous les trucs genre le jeu de stratégie tour par tour, comme on avait le Gwent dans Witcher. Il y a les courses de machines. Enfin, il y a des tonnes d'activités, des tonnes de choses, presque trop. On parlait de l'open world avec l'arbre de Noël qui s'affiche quand on ouvre la carte. Là, on est vraiment dans ce type d'open world là. Mais clairement, c'est une super expérience, c'est super beau. Le reproche que je ferais, c'est celui que faisait justement Benoît dans sa vidéo. C'était le reproche qu'il avait trouvé au jeu. C'est le backseat d'Aloy qui parle tout le temps. On en parlait un petit peu. Thomas nous disait la semaine dernière que ça n'avait pas beaucoup dérangé. Moi, j'avoue que ça me tape sur le système, quoi. Au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est bon. Enfin, c'est comme tu le disais dans ta vidéo, que je recommande, Benoît. En fait, elle a tellement besoin d'expliquer, c'est les développeurs qui ont tellement besoin d'expliquer aux joueurs où ils sont et qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils ne soient pas perdus, qu'elle parle tout, elle fait la narration sur tout. Et la narration en elle-même n'est pas gênante, mais on peut se retrouver dans des situations un petit peu ridicules où elle fait deux pas et elle répète d'une manière différente ce qu'elle vient de dire quand on avait pris la quête. Genre, je dois maintenant aller trouver les vélociraptors. Et puis tu te mets sur la route. Ah, je crois que les vélociraptors sont par là. Les vélociraptors doivent arriver. Je dois leur prendre telle pièce pour la donner à machin. En deux secondes. Ça devient vraiment un petit peu frustrant au bout d'un moment.
Et puis surtout, comme elle te dit ce que tu dois faire, ça sert à rien de regarder autour de toi, quoi. T'es sur des rails, quoi. Elle te dit, ah tiens, il y a une porte là-bas, ensuite il y a un conduit d'adhération, ensuite tu fais ci, ensuite tu fais mi. Elle te donne la recette à chaque fois, c'est dommage, quoi.
Ouais,
l'histoire est top, hein. Vraiment, moi je l'ai terminé. Et l'histoire, je la trouve vraiment cool. Tu vois, autant le 1, je trouvais qu'elle mettait du temps à démarrer et c'était la fin qui était cool. Là, ils commencent vraiment direct sur les chapeaux de roue avec leur délire de post-apo et ça marche à fond, quoi. Enfin, pour le coup, moi, je trouve que ça devient assez facilement une des meilleures séries de SF qu'on ait en jeu vidéo, quoi.
Ouais. Clairement, il y a un truc qui est hyper séduisant dans la narration et c'est vrai que c'était beaucoup plus lent dans le premier. Mais il allait au-delà de la promesse initiale et c'est un truc qui peut-être il y a beaucoup de gens qui ont testé le début du jeu et puis n'ont pas continué. C'est effectivement un peu dommage parce qu'il va plus loin que ce qui, enfin plus loin dans l'histoire qui est intéressante. Le gameplay lui reste assez égal à lui-même, mais là on est effectivement dans un rythme qui est peut-être un petit peu plus soutenu.
Et un bon conseil, moi que je donne aux gens, c'est si ça vous saoule les open world comme ça, mais que vous avez quand même envie de voir l'histoire parce que l'univers est sympa, jouez-y en facile. Il y a un mode histoire, vous passez à travers tous les ennemis, vous avez zéro besoin de farmer, de quoi que ce soit, et vous profitez c'est le gros kiff panorama, gros robot, histoire. Et moi, j'ai fait toute la fin du jeu comme ça, et ben c'était génial. Vraiment, j'ai surkiffé le jeu au moment où je suis passé en facile.
Ouais. Clairement, il y a certains passages qui sont un petit peu difficiles, et je suis encore que, je sais pas, au tiers du jeu, quelque chose comme ça, donc je peux tout à fait imaginer, même dans le premier, il y avait des moments où ça rigolait plus tellement. Donc ouais, et l'histoire, enfin bon, on voit les prémices là où j'en suis, mais l'histoire du premier, en tout cas, valait le coup, c'était vraiment intéressant, donc comme tout le monde semble dire que c'est le cas ici aussi. Avec tous les jeux qu'il y a à faire en ce moment.
Franchement, plus tard, ça vaut le coup. Hein, de... Non, vas-y.
Non, mais justement, moi, j'ai pas encore pu y jouer faute de temps, alors que j'ai la clé, quoi. Et là, je vois les images. Tu sais, j'avais fait en sorte de pas trop regarder. Moi, je suis un peu team, je regarde le moins possible pour garder le surprise. Et là, j'ai trop envie d'y jouer.
Ah, mais il est tellement beau, en plus. Hein.
Ouais.
Vraiment, tu vois, j'ai pas fait tant de photos que ça, mais tu peux vraiment t'arrêter toutes les deux secondes et te faire ton nouveau fond d'écran. Hein. C'est taré.
C'est très très beau. Moi, je trouve que c'est un peu une version PlayStation 4 plus, en sens que c'est clairement la même architecture avec plus de détails. C'est hyper beau, il y a pas de doute.
Visuellement, non.
Bah, c'est...
Ah non, c'est fou. Hein. Vraiment, il y a techniquement, c'est tellement bourré de détails.
Ouais. Mais si tu veux, c'est l'architecture PC. C'est pas un truc qui... Enfin bon, bref, peu importe. C'est là. On est d'accord, il est super beau. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est cette animation faciale et le motion capture.
C'est bluffant. Hein.
C'est dingue, mais c'est fou. Ouais. On est fasciné, captivé par les trucs. Et en plus, bon, allez, un dernier truc.
Ouais, t'as l'impression de regarder une super série, quoi, tu vois.
Ouais. Non, mais complètement.
Il y a vraiment des moments où tu te poses et tu regardes ta cinématique et t'es là, putain, elle est trop bien. C'est quand la suite sur Netflix, tu vois.
Et tu as envie de regarder tous les trucs, peut-être en partie parce que c'est tellement bien joué, en fait. C'est pas juste de l'animation, c'est du jeu d'acteur. Les personnages sont hypnotisants. Et il y a un autre truc que j'ai noté qui était déjà le cas dans le premier, mais qui est peut-être encore plus présent parce que les visages sont tellement mieux modélisés encore. Les visages des gens, c'est des gens normaux, entre guillemets. C'est pas des acteurs super beaux. C'est des gens qui ont des visages, je ne sais pas, de gens normaux, quoi, qui ne sont pas... Tu vois ce que je veux dire, Benoît?
Oui, non, mais c'est pas les canons, même au niveau de l'anatomie, hein, tu vois, c'est un des rares jeux où tu vas avoir des protagonistes féminins qui sont pas toutes taillées comme des mannequins, tu vas avoir des nanas un peu boulottes, des nanas un peu maigres, des nanas un peu grandes, baraques, enfin, tu vois, t'as plein de corps différents, quoi, et ça, du coup,
et plein
ça
de visages,
bien, quoi.
Ouais, et plein de visages différents pour les hommes et les femmes, mais tu vois, il y a des gens qui sont des personnages et qui sont juste, tu dis, oh, bah, lui, il est pas super beau, ou lui, il est. Enfin, je sais pas, c'est un truc qu'on voit jamais, quoi. Donc,
Non, justement, ça, c'est vrai que c'est agréable. Hein. Mm. Bon, ils ont fait un sacré boulot, de toute façon. C'est un jeu que j'ai trouvé vraiment très cool. Hein.
Incroyable. Et franchement, mais Sony a tellement ouvert le chéquier, c'est dingue. Bon, donc voilà pour Horizon. Et je voulais évidemment mentionner aussi Destiny 2 de Witch Queen. Vous savez que je suis un gros adepte de Destiny. Et quand il y a une nouvelle extension, c'est toujours l'occasion de reprendre un petit peu à zéro pour se relancer dedans. J'ai joué quelques heures. Hein, il est sorti mardi soir, mercredi matin, après les problèmes de serveur. J'ai joué quelques heures, donc c'est pas une impression générale du jeu, mais bon, clairement, c'est du Destiny. Si vous n'avez pas été client avant, je ne pense pas que vous le serez aujourd'hui, mais ça reste super efficace, super agréable au niveau du gunplay. Puis il y a quelques différences intéressantes dans les systèmes. Sur la campagne, il y a l'option de jouer la campagne en mode légendaire, c'est-à-dire en difficulté accrue, ce qui offre un bon challenge et qui donne des bonus sympas pour quand on arrive au endgame, qui peut être franchement une bonne option pour les gens justement qui se disent bah, je veux jouer un petit peu en mode solo et puis après le endgame on verra, mais c'est pas forcément mon premier objectif. Et ben là, ça rajoute du challenge et de la durée de vie à cette campagne qui, par le passé, comme souvent dans les jeux type un petit peu MMO, jeu service, bah c'est une formalité. Là, ça rajoute un petit peu de comment dire, c'est même pas vraiment une question de durée de vie, mais de challenge, d'envie d'y aller. Et puis un autre système qui est un système assez intéressant pour les armes, ou alors avec des histoires obscures de mécaniques de jeu avec lesquelles je vais pas vous saouler. Il y a certaines armes dont on peut extraire des composants en les utilisant. C'est-à-dire qu'il y a une barre d'utilisation à remplir et quand elle est remplie, on peut extraire des composants qu'on va utiliser pour crafter d'autres armes après. Bon, ça, c'est des mécaniques de jeux service classiques qui sont toujours au cœur de Destiny et de ces jeux-là. Mais là, l'effet que ça a, c'est que ça force un petit peu à utiliser d'autres types d'armes et donc pas forcément à rester avec son build classique qu'on va prendre un petit peu partout et aller essayer d'autres types d'armes qui pourraient être fun si on les essaye alors qu'on ne le fait pas forcément à la base. Donc, il y a quelques bonnes idées. C'est pas la plus grande extension de ce que j'en vois jusqu'ici. C'est pas la plus grande extension de Destiny, mais il y a quelques bonnes idées. C'est sympa. Je dirais que c'est compliqué de conseiller Destiny aux gens qui n'y ont jamais joué parce que c'est assez obscur, mais j'ai l'impression que l'histoire que certains vantent depuis quelques saisons, depuis le début de l'année, on va dire, le début de l'année dernière, ça reste, c'est pas pour ça qu'on va voir Destiny. Mais par contre, la campagne donne une bonne impression du fun, du gunplay de Destiny. Alors, je sais pas, je vais vous avouer, c'est l'un des problèmes, je sais même pas ce qu'il faut acheter pour jouer à cette campagne. Est-ce qu'il suffit d'acheter cette extension-là pour pouvoir y jouer si on a, parce que le jeu de base est free-to-play depuis un moment ? J'en sais rien, je sais pas s'il faut avoir les anciennes campagnes, je sais même pas. Mais si vous trouvez un moyen de jouer à Destiny sur la campagne, je pense que ça peut valoir le coup. Pour une quarantaine d'euros, vous pouvez vous faire quelques heures bien sympathiques et vraiment découvrir le plaisir du gunplay de Destiny qui reste complètement unmatched, qui reste le meilleur gunplay de FPS auquel j'ai joué, quoi.
Donc, bon. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est des gens qui aiment Destiny qui le disent, hein.
Ah bah clairement non, l'avis général de Destiny, c'est vrai, mais je crois que le gunplay
fait
assez consensus.
Plus, c'était juste pour te montrer le ridicule de cette remarque au départ.
Bah, le gunplay dire... eh bah, je
sur le fait, de mettre en cause, tu vois, les gens qui testent en disant ils aiment ces jeux, donc ils en disent du bien.
J'ai bien compris, excellent.
C'est ça, moi je m'en fous de Destiny. C'est un des jeux avec le pire onboarding de l'univers, donc c'est impossible de le découvrir aujourd'hui. Hein.
Ouais, ça c'est, oui, c'est pas faux. Mais le gunplay...
là, non, c'est, oui, voulais, non, mais c'est les prix, ils sont trop forts. Hein.
Mais le
non,
gunplay...
Non, ils sont très forts pour ça. Hein.
Il fait consensus, oui, c'est sûr.
Ouais, ouais.
Et du coup, oui, si vous voulez découvrir le gunplay de Destiny, peut-être que c'est l'occasion avec le lancement d'une extension. Bah écoutez... on me dit dans la chatroom, les deux premières missions de la campagne sont gratuites. Pour la campagne, il faut seulement le DLC. Eh bien écoutez, la réponse est là. Le jeu est gratuit et les deux premières missions sont gratuites. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas tenter, du coup. Merci à Seagull de la précision. Effectivement, il y a une grosse composante free-to-play sur Destiny. Et moi, je continue à être complètement client. Eh bien écoutez, ça nous a fait un gros programme sur les sorties de jeux. Alors il y en a plein il y en a quelques-uns dont on va même pas parler parce qu'on a juste pas le temps. Il y a Total War Warhammer 3 qui a de très très bonnes reviews. Il y a Monarch qui est sorti, le jeu de Monarch, qui est une société faite par des anciens, c'est Atlus si je ne m'abuse. Qu'est-ce que je raconte ? C'est bien ça ? Bref, Monarch, le Persona... Persona-like. Et il y a quelques news sur lesquelles on va passer très rapidement. Shadow Warrior 3 sera disponible dans l'abonnement PlayStation Now au moment de la sortie du jeu. Alors vous allez me dire, mais attendez, un jeu qui est disponible dans le PlayStation Now, on s'en fout. Oui et non. C'est intéressant parce que c'est un jeu qui est dans le PlayStation Now, le service d'abonnement à catalogue de Sony, qui est dispo au moment de la sortie. Ce qui est un truc qui est généralement fait plutôt du côté de Xbox. Donc, est-ce que Sony est en train de préparer un petit peu les choses pour l'upgrade de son service PlayStation Plus Now qui devrait annoncer...
Ah bah, il serait temps, ouais.
Ouais, il serait temps, on est d'accord. Mais ça pourrait arriver. Bon, Shadow Warrior 3, j'étais curieux de le voir. Peut-être avec le PlayStation Now, prendre un mois d'abonnement, pourquoi pas. Bon, il y a tellement de jeux déjà, je serais en train de me casser la tête sur Elden Ring encore à ce moment, c'est fin mars. PlayStation Plus va offrir Ghost of Tsushima Legends le mois prochain, en mars. Et Ghost of Tsushima Legends est une excellente petite side activity de Ghost of Tsushima que je recommande depuis sa sortie. Et vraiment, il est super sympa. Il va être offert dans le PlayStation Plus, donc il y aura plus d'excuses pour ne pas s'y plonger. Et on a aussi vu un reveal, ils ont fait une présentation du casque PlayStation VR 2, bah, qui ressemble à un casque de réalité virtuelle. Hein. Il n'y a rien de vraiment surprenant là-dedans. On n'a pas plus de détails vraiment, à part quelques trucs, genre on peut adapter les lentilles, les déplacer, machin. Mais le PSVR 1 était le plus confortable des casques de réalité virtuelle. Le VR 2 a l'air d'être un petit peu le même mode en mieux. On attend toujours des dates hein, pour ça. House Flipper 2, on en parlait, il est annoncé pour 2023. Oui. Trinity est déjà sur les rangs. Persona, ah, alors il y a Soul Hackers qui est une suite d'un jeu qui est dérivé de Shin Megami Tensei au même titre que Persona. Le jeu en question était sorti en 97, ça s'appelait Devil Summoner Soul Hackers. Et donc c'est un jeu qui va arriver dans... Quand est-ce qu'ils ont dit ? Je ne sais même plus. En août, il arrive très bientôt et il est sur toutes les consoles, sauf enfin, toutes les machines, sauf la Switch. Je crois qu'il sort même pas sur Switch, ce qui est insensé vu qu'il était sur 3DS le premier. Mais vous savez que les stores Switch et Wii U vont fermer. Il y a une liste que IGN a fait des 100 jeux Wii U et 3DS à télécharger avant, enfin à acheter avant la fermeture des stores, parce qu'évidemment il y a des jeux qui seront plus du tout disponibles. Donc si vous voulez être sûr de ne rien rater, vous pouvez aller voir cette liste de IGN. Que j'essaierai de mettre dans les notes de l'émission. Et il y a Devil Summoner dans le lot, si je ne m'abuse. Je crois qu'il est dans le lot, donc voilà, vous aurez tout. Le Steam Next Fest arrive dans quelques jours, le 28 février, donc plein de démos à tester sur Steam. Et il y a le Steam Deck qui va arriver ce vendredi. On commence à avoir un petit peu plus de détails. On peut tester les jeux de notre librairie de jeux Steam qui sont, s'ils sont compatibles ou pas avec le Steam Deck. Vous savez, c'est la fausse Switch, le Steam Deck, évidemment. Et ça arrive donc là, vendredi. Vous avez précommandé, vous êtes intéressé par le Steam Deck ou ça vous dit pas du tout?
Moi, j'ai rien pas du tout. Pour l'instant, à voir. J'attends d'en voir un peu plus, en fait. Ouais. Ça peut m'intéresser, tu vois, notamment pour mes voyages.
Bah oui, toi, avec Baluchon, tu vas parcourir le monde, donc...
Exactement, donc... mais pour l'instant, pas de précommande. J'attends...
Jouer à Food Truck Simulator dans le train, quoi. Ou dans la bagnole, enfin, je veux dire...
Ouais, c'est ça. Non, parce que Trinity a un mobile home de designer spécialement pour elle, et elle va faire des voyages partout en France, dans le monde. Donc, le Steam Deck, c'est fait pour toi.
Effectivement, ça colle bien, ouais.
Ouais, ça colle pas mal. Et puis, avoir aussi, ça, c'est complètement me concernant, mais avoir aussi la facilité ou pas à streamer, est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir brancher, streamer cet objet-là, etc., quoi.
Ouais, j'imagine que dans ton cas, un ordinateur portable, ça sera peut-être un petit peu plus simple, en fait.
Exactement.
C'est sûr. Quoi d'autre ? Il y a toute une série de petites news. Le launcher Bethesda va fermer. Évidemment, Bethesda appartient à Microsoft aujourd'hui. Et tous les jeux vont être transférés sur Steam. Donc, vous allez automatiquement, normalement, avoir une migration des jeux sur Steam. C'est intéressant de voir que le launcher... Enfin, Microsoft abandonne un petit peu sa stratégie de launcher. Ils s'en foutent, ils veulent mettre leurs jeux partout de toute façon. J'imagine qu'il y avait peu de gens qui utilisaient vraiment le launcher Bethesda. Mais là, ils vont aller sur Steam. Et Twitch revient sur les consoles Xbox. Voilà, tu peux streamer comme ça, du coup, Trinity.
Exactement.
Avec direct des consoles. Ils l'avaient supprimé à l'époque où ils avaient racheté Mixer. Vous vous souvenez de ce truc,
ouais.
Non
oui, ouais. Putain, c'est vrai, ouais.
Tu sais que moi, j'ai commencé à streamer sur ma console Xbox, hein, il y a 8 ans.
C'est vrai ?
Ouais, j'ai attaqué.
Sur Battlefield ?
Ouais, sur Battlefield, j'avais pas de PC. Du coup, j'utilisais la caméra, la petite caméra qu'avec la Xbox, et je streamais directement sur l'application.
Incroyable ! Et t'as fait ça combien de temps comme ça ?
Honnêtement, je crois que j'ai dû faire ça au moins un an.
Ah ouais ?
Au moins un an et demi, ouais. Et ensuite, c'est les viewers qui m'ont dit « Bon, écoute, là, maintenant, tu vas t'acheter un PC. Hein, nous, on veut te voir sur PC, etc. Ouais. » Et
moi, je soutiens à 100%. J'ai filmé ma télé pendant 2 ans, moi. Donc, je savais même pas de capturer sa console. Quand j'ai commencé, je filmais ma télé, moi.
C'est vraiment les old school, hein.
C'est le genre de truc qu'on peut plus vraiment faire aujourd'hui. Hein. C'est le genre de truc qui marchait à l'époque, il y a 8-10 ans. Aujourd'hui, ouais. Bon, c'est un petit peu plus compliqué.
Non, c'est clair.
2K devrait réaliser des jeux Lego, des jeux de sport Lego. Donc, la franchise est en train de s'étendre au-delà de son exclusivité. Il y a plein de news super positives sur Final Fantasy XIV et les upgrades que le jeu va recevoir sur les 2 prochaines années. Une facilité du jeu en solo, des upgrades graphiques qui, sur 2 ans, vont s'étaler et améliorer le jeu graphiquement. Enfin, les fans de Final Fantasy sont super contents. Et beaucoup de gens ont noté aussi, alors c'était un stream assez long du producteur, mais on notait l'honnêteté des réponses aux questions qu'ils ont obtenues. Et c'est vraiment un truc que tout le monde s'accorde à dire, c'est qu'ils ont une relation avec leur communauté qui est hyper franche et qui est très différente de ce qu'on peut voir dans d'autres domaines. Il y a cette sorte de sincérité, j'ai l'impression, chez certains producteurs japonais. Je ne sais pas si c'est authentique ou si c'est hyper japonisement manufacturé, mais en tout cas, ça semble très bien fonctionner avec les communautés. Donc, en tout cas, les gens sont contents pour Final Fantasy XIV. Quoi d'autre ? Apex Legends arrive sur mobile dans certains pays la semaine prochaine. Donc, les jeux mobiles continuent à se développer. Je suis très curieux de voir ce que donnerait Apex Legends sur mobile. Moi, ce qui m'intéresserait après mon expérience plutôt positive avec Wild Rift, la version mobile de LoL, c'est de voir si les parties seraient peut-être un peu plus courtes ou ce genre de trucs pour pouvoir se lancer plus facilement, plus que le fait que ça soit sur mobile. Donc, je regarderai un petit peu ce qu'il donne. Et puis, le point qui va faire plaisir à plein de gens, c'est pour les 25, c'est les 25 ans de Nier Automata. Les 25 ans de Nier.
Non plus.
C'est combien de temps? 10 ans? 20 ans? C'est combien de temps?
Ouais, ça fait 5 ans qu'il est sorti, Automata. Nier tout court, ça doit être 10 ans, un truc comme ça.
10 ans. Bon, c'est peut-être les 10 ans, je sais plus, mais il y a une occasion. Ah, mais non, d'accord, je dis des bêtises, c'est vraiment pour l'anniversaire, le 5e anniversaire de Automata spécifiquement. Eh bien, il y a une série animée qui va sortir. Donc voilà, auxquels l'univers du jeu manque auront leur petite dose de Nier Automata à terme.
Un petit avis, Patrick. toi, t'es content.
Ah, mais moi, j'ai très hâte. J'ai très hâte. Je vais prendre du temps sur mon 4e replay de Nier Automata, mon replay annuel de Nier Automata. Pour regarder l'animé, bien sûr.
Moi, c'est tout ce que je voulais savoir. Tu me rassures.
Très bien. Les gens qui ont écouté notre spécial sur Nier Automata comprendront. Allez, dernière chose, je vous promets, après c'est fini. Toujours dans le domaine de l'animation, dans la série Halo, on verra le visage de Master Chief, de John Halo. Et c'est un truc dont je parlais il y a quelques semaines, et je disais, mais c'est pas possible de faire une série sans montrer son visage, c'est gimmick, c'est ridicule, quoi. C'est juste, on monte pas son visage dans le jeu, donc on monte pas le visage dans la série.
Mandalorian, personne n'oserait faire ça.
Pardon ?
À part Mandalorian, personne fait ça.
En fait, c'est un petit peu, tu te dis... Mandalorian, ils ont réussi. Mais même, on voit son visage à un moment quand même. Désolé, c'est un spoiler.
Oui.
Mais tu te dis, ils ont réussi dans Mandalorian, donc pourquoi pas avec Halo ? Mais quand même, c'est compliqué, quoi. Tout le monde peut pas...
Ouais, je sais pas, moi je trouve ça chelou. Hein. Tu vois, je connais pas trop mal l'univers de Halo et je trouve ça bizarre de montrer son visage à John.
C'est sûr.
Bon, faut voir, hein, ça se trouve, elle sera bien la série, je dis pas. Hein.
C'est possible. Disons que c'est clairement un moment qui va être difficile à gérer et j'espère qu'ils vont réussir à gérer le reveal du visage de John parce que c'est hyper casse-gueule pour une série qui a tellement d'histoire et qui est tellement basée sur le personnage dans son casque.
Moi, bon, je pense qu'il va être bourré, tu vois, il va vomir dans son casque, il est obligé de l'enlever. Ouais, je veux dire, un vrai Marines, quoi. Enfin, voilà.
Il l'enlève de temps en temps, tu vois, au niveau du canon du personnage. Parfois, il l'enlève. Il vit pas avec son casque sur la gueule tout le temps. J'imagine que dans les jeux, il y a un moment où on voit genre
pas se poser la question. Tu sais, ça rentre dans toutes ces catégories de « il vaut mieux pas se poser la question
». C'est pas faux.
T'as des trucs dans les univers, il faut pas savoir.
Bon, bah écoute, merci à tous les deux. Et ce qu'on veut savoir, évidemment, c'est où on peut vous retrouver dans l'Internet quand vous n'êtes pas dans le rendez-vous jeu. On va commencer avec Benoît, dont je pense qu'il est... C'est l'entre-terre, c'est ça ? Qu'il est dans l'entre-terre.
Oui,
là,
c'est ça. J'y suis en ce moment, là. Tout va bien.
T'es en train de jouer pendant que tu fais l'émission
Oui, je suis en train de jouer.
Mon Dieu!
Et tout va bien. Voilà, je suis là-bas. Non, mais du coup, moi, je suis sur YouTube, c'est XR85, Twitter, pareil. Et j'ai un podcast qui sort deux fois par mois qui s'appelle Fin du Game, qui marche toujours très, très bien.
Excellent podcast, effectivement, que j'apprécie beaucoup. Et Trinity, où es-tu sur Internet, dis-moi?
Eh bien, toujours pareil. Je suis sur Twitch en direct, presque tous les jours, sur la chaîne Trinity.
magnifique. Il y a des choses qui se passent dans les jours à venir, au-delà de ton event ce soir. Tu vas faire des visites quelque part, de la cuisine, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, bien sûr. Alors bon, demain, gros événement, effectivement, Elden sur la chaîne. Mais ouais, il y a toujours de la cuisine, du voyage, il y a des très grosses choses en voyage qui arrivent prochainement. Voilà.
Très bien. Bon, demande pas plus, on aura la surprise.
Ouais, exactement.
Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, partout. NotePatrick.com pour les liens vers tout ce que je fais, donc les podcasts bien sûr, mais aussi la communauté Discord où on parle de plein de trucs et on est super, c'est plein de gens super sympas qui parlent de jeux vidéo, mais pas seulement, de la tech et plein d'autres choses. Vous avez aussi la chaîne Twitch si vous êtes en train d'écouter en podcast en ce moment. Vous pouvez regarder quand on enregistre le jeudi midi sur twitch.tv/notepatrick ou alors sur YouTube, vous pouvez regarder les replays NotePatrick Podcast. Les liens sont sur notepatrick.com, c'est NotePatrick partout. Et bien sûr, pour soutenir l'émission, patreon.com/rdvjeux. On était tellement emballés par nos discussions que j'ai même pas pensé à en parler en milieu d'émission. Donc, je vous le dis maintenant, patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission. C'est un petit euro par épisode, si vous le souhaitez, ça peut monter un petit peu plus haut. Bien sûr, si vous ne pouvez pas vous le permettre, je suis très heureux que vous écoutiez l'émission de cette manière. Mais si vous voulez soutenir un créateur sympathique, eh bien, vous pouvez le faire sur Patreon. D'ailleurs, je crois que le Patreon, le fin du game est sur Patreon aussi, n'est-ce pas ?
Yes, ça continue de monter, on est impressionné par le succès du truc, donc ça fait super plaisir de voir que ça marche encore, on a d'autres idées du coup pour pousser le truc un peu plus loin, donc voilà.
Eh bien écoutez, il y a le rendez-vous jeu, le fin du game et plein d'autres choses sur Patreon, donc si vous voulez soutenir vos créateurs, c'est une option qui est disponible pour vous aussi, et le lien est dans les notes de l'émission. Merci à tous les deux, merci à tous de nous avoir écoutés. On fait l'after show dans un instant pour ceux qui soutiennent l'émission justement sur Patreon. Je suis sûr que ça va être bien agité. Et puis pour tous les autres, on se retrouve dans une semaine.
Salut.
Ciao à tous.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.